tout de suite. Voici en direct le libre journal de Serge de Bekech. Très bonne soirée à tous. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck.
Non.
Ben non, c'est pas Franck. Mais non, c'est Claudio.
Vous reviendrez quand même.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40€. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
La musique, non ? Il n'y a pas de musique ? Amis de la résistance, bonsoir.
C'est une résistance.
Pour me réveiller.
C'est une résistance molle, hein, ce soir.
Mais parce que moi, j'attendais la musique, autrement, je roupille. Ce soir, alors, le programme. Roger Olindre.
Bonjour.
Dans le micro, s'il vous plaît, monsieur Olindre.
C'est sec, Roger. alors, naturellement, autour de Roger, ben, l'équipe habituelle.
C'est nous, la bande ASDB, on est là pour tourner que.
Il est fou ce mec.
Bon courage.
Le marquis, vous pouvez.
Moi je suis très triste.
Quelques mots dans votre jargon à vous, parce qu'on a eu
Je vais vous dire ma grande tristesse, m'a offert une bonnette il y a quelques temps, de façon à ce que je crachouille pas trop dans le micro, et je l'ai laissée dans le secrétariat. Ouais. J'espère que je vais la retrouver.
En fer et d'un. Le marquis sans sa bonnette, c'est comme le rabbin sans sa kippa.
À peu près. J'ai peur, hein.
Mais c'est pas juste, il y en a qui ont des bonnettes spéciales. D'un beau jaune et pas les autres.
Alors il faut expliquer aux auditeurs maintenant ce que c'est qu'une bonnette. La bonnette, c'est. Comme ce qu'on conseille d'utiliser dans d'autres circonstances, mais là, on le pose sur le micro, et ça a le même effet, ça évite les contagions.
Ah, c'est voilà. Très jolie définition, je veux dire.
Mais c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Bien, parce qu'il y a quand même 12 000 personnes, dont plusieurs cacochimes, qui viennent crachoter dans le micro, et...
Dont nous ?
Dont nous, bah oui, bien sûr.
Si on avait notre bonnette perso, il n'y a pas de problème.
Alors maintenant, j'ai ma bonnette. C'est intéressant, nos émissions, hein. On s'ennuie pas une seule seconde, hein, je veux dire. Alors, parmi les invités, donc, j'ai dit autour de Roger, Patrick Goffman, le marquis, Victoria, que vous avez entendu.
François Robot.
François Robot, qui nous fera sa chronique habituelle de gastronomie, qui plaît bien, sauf à un auditeur qui a téléphoné en disant, Je ne comprends pas que vous fassiez une critique gastronomique dans cette émission, c'est déplacé.
Alors là, pourquoi?
Bah, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est pas pendant les heures des repas. Je sais pas. Enfin, donc, à part lui, et j'en suis désolé pour lui, mais on va continuer. Enfin, tant que François voudra, et parce que ça plaît bien. Je sais pas, ça plaît surtout aux restaurateurs, il faut le dire, hein, François.
Ah ben dans l'ensemble, les restaurateurs adorent qu'on parle d'eux. Ils sont un peu narcissiques et évidemment, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse.
C'est bien.
Ah, évidemment. Bon. Mais on va s'efforcer de trouver des bonnes petites adresses, faciles, accessibles et pas chères.
Ensuite, nous recevrons Jean-Jacques Lowe, qui est le directeur de la librairie que moi je continuerai à appeler du Séjour Mourir, la librairie du Petit Pont ou la librairie Saint-Nicolas, et pas du tout la librairie
France Livre,
parce que je sais pas que j'aime pas la France ni les livres, mais je trouve que France Livre ça ne me plaît pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis voilà. Donc en tout cas, c'est 6 rue du Petit Pont, et c'est là qu'on trouve tous les bons livres.
Et y compris les nôtres.
Surtout les nôtres. Et pour ne pas oublier, je signale que j'y serai présent avec ma moitié et quelques autres personnes samedi.
Voilà. Pour une journée catholique et royale, le 14 juillet, voilà. Ça s'impose.
Bah, ça s'impose, c'est prophylactique. J'attends aussi un coup de téléphone de Vincent Berteret. Que vous connaissez tous, qui est écrivain et qui a fait un merveilleux bouquin sur les jardins de Versailles et un bouquin excellentissime sur les protestants, et qui doit nous appeler pour nous indiquer simplement, dire quelques mots de ses visites de Versailles. Et il organise, lui d'ailleurs, une visite des jardins de Versailles le 14 juillet, afin que nul n'en ignore. C'est aussi une façon...
C'est la résistance.
Oui, mais on fait la résistance qu'on peut. On peut quand même pas dynamiter la République.
On va le faire elle-même.
Elle fait ça très bien. Je crois que le Gauleiter, actuellement présent, va s'en occuper très sérieusement. Henri-Paul Falavigna, qui je vais donner la parole tout de suite. En deuxième partie, nous aurons l'abbé Cellier, l'abbé Herry, qui nous exposeront leurs réflexions sur le motu proprio.
Qui vient de rétablir la messe en latin.
Elle n'avait jamais été interdite.
Elle n'avait jamais été interdite, elle n'avait jamais été supprimée, tout ça. Bon, ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. Valérie Baranger nous présentera son livre. Alors là, je vous le recommande tout de suite, si vous avez encore le temps de sortir de chez vous pour l'acheter avant qu'on l'interroge. Rivarol face à la Révolution française. Moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Rivarol. D'abord parce qu'il a eu l'intelligence de prendre le nom d'un journal que j'aime bien. Et puis en plus parce qu'il n'était pas à proprement parler révolutionnaire. Et accessoirement, c'était quand même un virtuose de la langue française, et donc on ne perd pas son temps à le lire, même si c'est en vain en ce qui me concerne, parce que l'imitation est assez médiocre. Voilà le programme. Et puis j'attends un coup de téléphone de Valrand Saint-Just, qui devrait nous informer de la façon dont s'est terminé le procès de l'épouvantable crapule qui vient d'être condamné à la perpétuité, c'est-à-dire qu'il sera libéré dans une douzaine d'années.
Non, il y a une peine de sûreté de 30 ans.
Ouais, t'as qu'à croire. Hein. Pierre Bodin, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises du Bas-Rhin pour 3 meurtres, dont 2 assortis de viol et 2 tentatives d'enlèvement. Et alors, ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est que les 16 coinculpés ont été acquittés. Alors là, je me demande vraiment... en tout cas, les avocats sont drôlement baraqués. Moi, je les aurais acquittés aussi.
Peut-être qu'on a...
sans les avoir coupés en deux au préalable.
Peut-être qu'on n'a pas voulu trop contrarier l'avocat de Pierre Bodin, qui avait eu le front de demander l'acquittement de son client.
C'est le boulot de l'avocat. Ça. L'avocat, il dit, mon client, il n'a que des ennemis qui ont déposé des preuves contre lui partout. C'est ses frères, ses cousins, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses... c'est une histoire tellement monstrueuse que on va en rester là pour l'instant. J'espère que Valrand pourra nous appeler. Et quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois qu'il m'en a parlé, il était d'ailleurs comme tous les gens normalement constitués qui ont assisté à ce procès, y compris Olivier Figueras qui y était pour présent et qui va publier dans présent, je pense, un article sur cette affaire. sur ce procès, étaient totalement bouleversés, mais atteints dans ce qu'ils ont de plus profond. C'est une blessure inguérissable. Le seul fait d'avoir assisté à ce procès. Alors vous pensez à tous ceux qui ont participé à ce procès. Il paraît que le procureur de la République lui-même était physiquement malade. Physiquement malade. Voilà.
Alors pour parler de procès, dans un procès moins grave quand même, enfin c'est important pour que les amis le sachent, j'avais tout simplement été attaqué par François, hein, qui avait publié ma photo, la photo du château, la photo du Facebook et ça, et disant que j'avais plus ou moins volé le château de Neuvy, quoi. Hein.
Bon, alors, il y en a qui volent des bagues.
On les avait poursuivis et ils avaient été condamnés à 2 000 euros. D'amende, et ils ont fait appel. Bon, et là, ils viennent d'être condamnés à 6500 euros d'amende, la publication de tout ça dans le journal est aux frais. Bon, mais je tiens à dire que ça n'a pas été facile, parce que pour condamner ces ordures, ça n'a pas été facile du tout. Alors ça prouve quand même l'état un peu de la presse en France, où un journal comme François peut se permettre d'écrire n'importe quoi. Alors ne parlons pas des autres, on va pas avoir des procès, ne parlons pas des autres, mais enfin, ces gens écrivent n'importe quoi, et plus c'est tordu, plus ça a des chances de passer, voilà. Alors, on a été au tribunal, j'étais présent parce que je comptais vraiment me défendre. Bon, Valérand a été bon comme d'habitude, je crois que je me suis pas mal démerdé, et j'ai un peu tétanisé la fille qui était là, et qui avait un dossier un peu, pour François, un peu léger. Alors, pour qu'un mec comme moi, on gagne, et on ait 6500 euros d'amende, je crois que c'est pas mal.
D'autres, et en plus, c'était assez invraisemblable quand même de voler le château, parce qu'on sait bien que t'es baraqué, mais enfin, pas
oui, C'est n'importe quoi.
Oui, j'ai complètement oublié, je voulais commencer par là, par une mauvaise nouvelle, et d'ailleurs une dédicace. C'est que notre ami Daniel Raffard de Brienne nous a quittés, et il est aussi, je suis sûr qu'il est au ciel, parce que c'est une telle qualité d'humour, de gentillesse, d'intelligence et de disponibilité, de générosité, ça peut que servir d'ascenseur pour...
Beaucoup d'auditeurs en sont témoins, puisque vous l'avez reçu...
Oui, j'ai reçu souvent, je l'aimais beaucoup, c'était vraiment un ami très 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 proche, très généreux, très gentil. Et il a beaucoup souffert dans les derniers temps, puisque, comme je l'avais raconté, il a été atteint d'une... il a été frappé par une... une hémorragie cérébrale qui l'avait rendu aphasique et pratiquement paralysé, et il ne pouvait plus faire que quelques gestes. Et ce qui était terrible, m'a dit son fils Arnaud, c'est que en revanche il avait gardé absolument sa lucidité. Alors c'était un homme intelligent, vif, drôle, et il était très très malheureux de ne plus pouvoir communiquer, si bien quand j'avais dit à son fils je vais aller le voir, je vais dire, écoutez, n'y allez pas, parce que ça rend les choses encore plus difficiles pour lui. Voilà, donc il est débarrassé de cette dépouille qui devenait trop lourde.
Oui, on l'a vu dans les derniers temps à la librairie. Effectivement, il avait toute sa tête, mais il était incapable d'écrire. Il était venu pour une séance de dédicace. Il a réussi péniblement à signer son nom, très maladroitement, parce qu'il ne maîtrisait plus son écriture. Mais avec ça, il était parfaitement conscient. On expliquait qu'il avait eu un accident vasculaire cérébral et qu'il n'était plus capable d'écrire. C'était assez terrible. Assez pathétique, oui. Et si je peux préciser, donc il a un dernier livre qui paraîtra à titre posthume au mois de septembre. C'est Benoît Mancheron aux éditions Via Romana qui l'édite. Il aurait bien aimé évidemment le faire paraître avant son décès. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, on organisera au mois de septembre une journée en hommage à Daniel Raffard de Brienne, lors de la publication donc de son ouvrage sur l'islam et les femmes.
Il faut ajouter aussi que dès demain ont lieu ces obsèques.
Oui, ces obsèques ont lieu demain à la chapelle d'Armentières.
Dans le Nord.
Oui. Ce qui est parmi les choses qu'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas pu publier le deuxième volume de ses mémoires qui étaient... parce que le premier volume était magnifique. D'ailleurs, le titre, je crois que c'était « Droit vers le ciel ».
Droit vers l'azur, il me
semble. Droit vers l'azur, hein. Et c'était un livre, c'était très intéressant. On découvrait ce personnage, qui il avait été. Alors, c'est un peu idiot, mais quand on connaît quelqu'un à 70 ans, 75 ans, on a du mal à imaginer qu'il a eu 15 ans, qu'il a été boy scout. Et lui, il était scout. Et il a été scout dans des conditions particulièrement dramatiques, puisque, il a fait partie, et c'est une expérience quand même pour un garçon de 15 ans qui est très lourde, il a fait partie des troupes de scouts qui se sont portées volontaires pour retirer les morts des ruines des bombardements anglo-américains sur le nord de la France. Et vraiment, il en avait gardé un souvenir à la fois terrifié et très fort, très vif. Il me racontait comment... quel cauchemar ça pouvait être de voir ses corps broyés, démembrés, pour un gosse de 15 ans, et ça avait beaucoup marqué sa vie.
Je peux dire un mot sur son livre que, enfin, j'estime être son livre phare, c'est Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est un livre d'apologétique qui est paru aux éditions de Chiré, et c'est un livre que l'on vend toujours, qui est toujours demandé. C'est une présentation de la foi catholique, et j'espère bien que ce livre lui épargnera... quelque temps de purgatoire.
La meilleure qui devait passer au purgatoire.
C'était aussi un spécialiste, je crois qu'on peut employer le terme, du linceul de Turin.
Il a été un des grands propagateurs de l'authenticité du linceul. Il a été le président du CIELT. Il a animé plusieurs congrès. Il a donné une série de conférences... je sais pas combien, plus de 100 conférences sur la seule conférence qu'il illustrait, si j'ose dire, par une présentation en grandeur nature de la reproduction du linceul qu'il avait obtenu par les laboratoires photographiques, dont je sais pas si c'est Kodak ou je sais pas.
Il s'est risqué jusqu'à la télévision, je crois, déjouait les pièges savamment. Nous parlons de Daniel Raffard de Brienne. Je le répète pour les auditeurs qui auraient manqué le début de la séquence.
Voilà, mais on en reparlera plus longuement, sans doute avec son fils que j'inviterai à venir.
Et puis un dernier détail, c'est que surtout dans l'actualité d'aujourd'hui. Il s'est fait connaître par ce qu'il avait écrit donc pour un lecteur et tradition, Lex Orandi, Lex Credendi, une défense de la messe traditionnelle. Mmh. Et il est mort d'ailleurs.
Il est mort le 7, le jour même de la signature du motu proprio.
L'éducation.
Voilà, bon, il y aurait plusieurs choses à dire sur l'actualité. Je vais revenir très brièvement sur ma petite favorite, qui est Madame Rachida Dati. Qui a démontré qui est en train de démontrer qu'elle est vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait à sa place, puisque elle est même la seule à sa place, puisque tout son entourage fout le camp en cavalant depuis son directeur de cabinet jusqu'à
Michel Dobkin.
Dobkin et toute la bande des autres. Enfin, ils foutent tous le camp parce que visiblement, je vois très bien comment ça peut se passer. Comme cette personne est à l'évidence insuffisante et qu'elle n'est pas à sa place, elle pallie ses carences en poussant des coups de gueule, en insultant tout le monde. Et d'ailleurs, Dobkin a dit qu'il partait parce qu'il en avait marre. Il a dit à ses collaborateurs, j'en ai marre de me faire insulter à longueur de journée.
J'ai eu la curiosité de regarder dans la dernière édition du Bouzou, la vignette des deux partants. C'est les magistrats les plus pointus de France. Hein.
Ah oui,
il s'agit de Philippe Lagauche, de Françoise Andro-Cohen et de Xavier Samuel.
En plus de Dobkin, ça fait quatre quand même. Quatre ça fait combien de temps qu'elle est
Même pas un mois.
Elle garde peut-être les sceaux, mais les gens intelligents seront. Donc,
très bien. Il va rester que les sceaux.
Rappelons un petit détail pour expliquer peut-être en partie sa nervosité. Le 13 juin dernier, elle annonçait à son trompe que la grâce présidentielle du 14 juillet serait spectaculaire et massive, oui, avant d'être démentie quelques jours plus tard.
Enfin, on pouvait penser que le bazar commencerait dans les prisons, puisque c'est la règle quand il n'y a pas de grâce, et ça commence carrément au ministère. Alors ça promet pour la suite.
Hein. Voilà. Alors, cela dit, elle n'a pas tout perdu, la garde des Sceaux, puisqu'il y a un certain François Guéant qui vient d'entrer dans son cabinet. cabinet ministériel, je m'entends, hein, on n'est pas dans...
Guéant comme le...
Guéant, et il se trouve que ce François Guéant, il a une qualité essentielle pour devenir... pour entrer dans un cabinet et pour devenir chargé de mission pour les victimes, c'est qu'il est le fils de Claude Guéant, qui est le bras droit de...
Secrétaire général de
l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, le bras droit de Nicolas Sarkozy. Donc lui, au moins, on sait pourquoi il est devenu chargé de mission. Mais il est évident que ça n'a rien à voir avec le piston. Hein. Faut pas...
Ah, non, ça c'est impossible.
Non,
ça n'existe pas dans notre pays.
Non, 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 faut pas tout mélanger.
Et d'ailleurs, des Guéants de la pensée n'en ont pas besoin.
J'ajouterais que Sarkozy, dans sa série Ouvrons les portes à l'amitié, a proposé à Claude Chirac de devenir consul général de France aux États-Unis, à Los Angeles.
Yes, ouais.
Mais il était content, Sarkozy, à Alger, parce que, à côté de Bouteflika, il paraissait grand.
Oui. On va en parler de ça.
Mais ils se sont embrassés chaleureusement. On serait cru dans un film gay.
C'était abusif, là. Et très abusif, là.
Ben, il s'agit une fois de plus de nous niquer, comme il dit, élégamment. Vous allez voir comment. Je suis à peu près certain. Et donc, Claude Chirac, il espérait qu'elle serait le plus loin possible.
Elle a refusé.
C'est vraiment dommage pour lui. Oui, alors en ce qui concerne effectivement l'Algérie, il est allé... C'est pas très clair cette histoire de voyage dans le Maghreb, parce que c'était prévu pour beaucoup plus longtemps, ça devait durer beaucoup plus longtemps, ça n'a pas duré du tout. Et il a commencé par expliquer que l'amitié n'avait pas besoin d'un traité.
Oui.
Ensuite que la repentance, effectivement, comme il l'avait dit, ça allait bien comme ça, qu'il fallait... laisser le temps au temps, laisser les morts enterrer les morts et tout. Et alors, naturellement, ça, c'est pour séduire son électorat. Je vais essayer de pas donner d'épithète. Son électorat, voilà, restons-en là. On va résumer le truc en disant électeur de Sarkozy. Hein? Ça va devenir maintenant plus besoin d'être désagréable quand on veut insulter quelqu'un. On dit, toi, t'as une tête à avoir voté Sarkozy. Et donc... Évidemment, ce qui se cache derrière ça, c'est un programme d'ouverture à peu près complet des frontières. C'est tout ce qui intéresse les Algériens. Toutes les interviews qui ont été diffusées...
Parler des visas.
C'est les visas, hein, qu'ils s'en foutent du reste. Et alors, on voit bien l'argumentation, c'est... vous devez nous donner des visas pour qu'on vienne vivre chez vous, parce que depuis que vous êtes partis, c'est le bordel chez nous.
Oui. Et en même temps, n'oubliez pas de donner aussi une carte visa. En même temps, ça pourra servir.
Le visa, une carte visa pour l'argent les murs.
On ne le dit pas seulement dans les couloirs du pouvoir algérien, mais le quotidien Al-Watan en a fait un dossier accablant, en parlant à la une de gabegi, de gaspillage, d'abus de pouvoir, etc., etc. Alors Sarko prépare. Je lis dans les Échos que Sarkozy prépare l'après-pétrole avec Bouteflika. Parce que c'est vrai que ça laisse rêveur quand on voit ce qu'ils ont fait avec la rente pétrolière, ça laisse rêveur sur ce qu'ils font sans.
Ouais.
La Jeanne d'Arc a bouté les Anglais, mais nous on n'a pas bouté Flic, hein. On l'a toujours sur les bras.
Pas mal.
Merci.
J'ai gagné un billet pour la prochaine semaine, mais je ne serai pas là.
Ah, mais il y a une chose aussi quand même qu'il ne faut pas oublier, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est incroyable, mais les caisses du gouvernement algérien sont pleines. Ils ont 60 ou 65 milliards provenant du pétrole qui ne sont pas employés. D'ailleurs, c'est ce qui leur a permis ces derniers mois d'acheter pour des milliards d'armements aux Russes. Hein. Mais si la population est malheureuse, ça vient du gouvernement, ça vient pas d'autre chose. Ça vient surtout pas, comme le racontent des imbéciles, de l'état dans lequel nous avions laissé l'Algérie, puisque nous leur avons laissé l'Algérie en état de marche. Et nous leur avons filé le Sahara en plus, hein, qui n'a jamais été algérien. Voilà,
mais il va retourner au Maroc, on nous dit, prochainement, pour discuter également du Sahara, puisque les Marocains prétendent aussi que le Sahara est à eux. Les Sahraouis prétendent que le Sahara est à eux. Finalement, il n'y a que ceux à qui il est vraiment, c'est-à-dire les Français, qui n'y prétendent pas. Roger, il faut quand même qu'on parle du...
Roger Olindre.
Roger Olindre, oui, de la question... d'une question dont tu es... à laquelle tu es partie prenante, si on a un sujet auquel tu es partie prenante, c'est la situation du Front National.
Parce que la situation du Front National n'est pas brillante du fait que nous retrouvons avec un paquet de dettes très, 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 très élevé. Bon, mais il y a deux sortes de gens, ceux qui baissent les bras et ceux qui disent « bon, on va pas laisser la situation dans l'état où elle est ». Alors, des gens nous disent « mais vous allez rebondir ». Bon, il est bien sûr certain qu'on va essayer de rebondir, mais encore faut-il un événement politique valable pour pouvoir rebondir. Les prochaines élections sont les élections municipales, on va se mettre dessus, mais tout le monde sait que ça n'est pas tellement facile. Ça n'est pas l'élection la plus facile. Alors je suis un peu consterné parce que depuis cette aventure pas très bonne. Bon, beaucoup de gens parlent. Moi, je vois autour de moi des gens qui ont vraiment bossé au Front National, qui se sont défoncés, qui ont donné 3 sous, qui collent des affiches, qui distribuent des tracts, bon, et qui parlent, qui sont assez anxieux. J'ai vu des militants pleurer. Hein. Mais je vois beaucoup de gens, il n'y a jamais eu autant de donneurs de leçons. Il fallait faire ci, il fallait faire ça, oui, mais c'est pas, tout ça n'est pas tellement facile. Alors, oui, mais vous allez bien trouver les responsables. Les responsables, on les cherche pas pour l'instant, c'est pas le moment d'agrandir les brèches, on colmate les brèches pour que le paquebot reste à flot. C'est le cas de le dire. Mais, moi, je ne cherche pas à faire porter le chapeau à qui que ce soit. Je suis un militant depuis toujours, je le resterai. Mais si nous avons 2 secondes, je vais lire pour les auditeurs qui s'intéressent à la survie de la France, donc à la survie du Front National, un petit article tiré de Challenge, qui est une revue économique bien faite, du 10 mai 2007. Alors, je regrette, on ne voit pas très clair dans votre tôle, là. Là, pourquoi Sarkozy...
Je que ce soit
pour parler de tôle, t'as vu connaître Sarkozy, des tôles, t'as vu encore moins clair.
Pourquoi Sarkozy a pris des vacances? Pour faire le vide. Oublier ces longs mois de compétition acharnée, au cours desquels il a pris les pires risques, dont celui de se transformer en diablotin le péniste. Il avait dit autour de lui, Mitterrand a fabriqué Le Pen... Moi, je vais l'atomiser. Paris gagné. Mais à quel prix? Une dureté étudiée. En se lançant dans une tactique frénétique du tout répressif, de la célébration hystérique de l'identité nationale, il a failli transformer l'UMP en succursale moderne, on ne sait pas pourquoi moderne, du FN. Il le sait. Sa tactique au bazooka pour récupérer les voix du FN l'a mis en danger, exaspérant les électeurs centristes et donnant à la gauche des raisons de le présenter comme un danger pour la France. La stratégie a payé. Chaque fois qu'on me signale que Sarko a été trop dur, j'hésite à le lui dire, raconte François Fillon, son conseiller politique, Premier ministre potentiel. Ce qui fait sa force, justement, c'est qu'il est dur. Une fois, il a dit en petit comité, « Si vous voulez que je sois centriste, il faut me le dire, mais dans ce cas, je ne serai pas élu. » Je t'en laisse une copie, t'en feras une copie pour les amis. Je crois que le gars qui a écrit ce papier a exactement défini la situation. Je crois qu'un jour, on saura... Quelle est la somme colossale qui a été mise dans cette élection? Et on saura quelles sont les agences américaines super spécialisées qui étaient derrière.
Ça, on le sait déjà. Mais si Dieu, ce qui me paraît, on le sait déjà, puisque on sait que les mêmes agences ont misé sur Sarko et sur Sego, puisqu'ils se foutaient de savoir lequel passerait, puisque de toute façon, ça serait les représentants des mêmes intérêts cosmopolites. Mmh. Donc, c'était très clair qu'ils en avaient absolument rien à battre du résultat. Ouais. Ce qui est non moins certain, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Sarkozy d'avoir utilisé les méthodes qu'il a utilisées pour gagner, puisqu'il a gagné de toute façon. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il ne fallait quand même pas s'attendre à ce qu'il défendît le Front National.
Ou
à
ce qu'il... C'est sûr et certain. Bon.
Alors, tu dis qu'il ne faut pas chercher les responsabilités. Moi, je veux bien, mais Sarkozy a fait son boulot. Donc il y a un des deux combattants. Le Sarkozy qui a fait son boulot. L'autre combattant, il a pris une raclée, je parle du Front National. C'est peut-être aussi parce qu'il y a eu des problèmes au Front National. Et on ne peut pas empêcher Sarkozy de faire son boulot. En revanche, je crois qu'on pourrait prendre des dispositions pour empêcher que ceux qui ont fait foirer deux élections de suite, la présidentielle et la législative, recommence une troisième fois. Qui ont obtenu ce résultat par des choix qui n'ont pas été approuvés par les électeurs, puisque les électeurs ont foutu le camp.
Mais sur le terrain, il était impossible de deviner quoi que ce soit. Jusqu'au dernier jour, partout, l'accueil a été formidable. Et les gens présents sur le terrain disaient toujours, ben, vous allez voir, alors cette fois-ci, c'est pas possible, avec le populo qui salue, qui dit bonjour, qui vient prendre les tracts, là, on va vraiment percer, on va vraiment faire un tabac. Moi, je pense que c'est inexplicable. Bon, enfin, moi, je n'arrive pas à l'expliquer, je ne suis pas politologue, moi. Je fais de la politique, je suis militant politique. Alors, je ne veux pas être politologue comme tous les gens que je vois qui ne font pas de politique. Je ne parle pas de vous autour de cette table, je vous connais depuis des années, vous vous défoncez. Mais le nombre de gens que je vois qui n'ont jamais rien foutu, qui se disent, je le répète, il faut faire ci, il aurait fallu faire ça, vous auriez dû faire plus confiance à Maigret et tout. Mais moi, je n'étais pas pour la guerre avec Maigret. Mais je l'ai déjà dit, il faut quand même savoir ce que la scission a été dramatique, a eu de dramatique.
Ok, hein, mais j'entends bien.
Les militants, ce sont pas des gens qu'on remue comme des pions. Les gars se sont trouvés un bon matin avec la guerre civile dans toutes les fédérations. Les portes coincées, les clés embarquées, les ordinateurs qui avaient disparu.
99.
En plus, aujourd'hui, si on fait le compte, on a 8 millions de dettes. Hein, mais si monsieur Maigret, c'est son droit le plus strict, il avait le droit de mettre des candidats partout, ils ont fait 1,5 ou 2% des trois quarts du temps, c'est notre dette, elle vient de là. Les trois quarts des gens qui ont chuté, tu ajoutes ce qu'a fait le candidat de Maigret totalement inutile, hein. Eh bien, moi, je suis passé dans une fédération où j'ai fait mon boulot, où je me suis défoncé, j'étais sur le terrain, j'ai fait du boitage et tout. Bon, j'ai découvert au dernier moment, au résultat, hein, le gars qui s'était présenté pour Maigret, que je ne connaissais pas, c'était un type, bonne gueule avec sa femme, demi-bourgeois, hein. Bon, ben, moi, j'ai dépassé, j'ai fait 5,40, un vrai coup de peau, mais lui a fait de 1,3. Bon, j'aurais peut-être pu aussi être dans les choux à cause de cela.
Alors, oui, mais attends, sur cette question-là, c'est évidemment, les candidatures des candidats maigretistes ont porté atteinte au score probable des candidats du Front, mais il faut quand même savoir comment ça s'est passé. Il y a eu un accord qui a été passé du fait même de l'existence du Front des Patriotes ou de l'Union des Patriotes et qui n'a pas été respecté. Qui n'a pas été respecté parce qu'il a été dénoncé officiellement par les dirigeants, enfin par des dirigeants importants du Front National. Quand M. Alliot dit par exemple qu'il ne veut pas entendre parler de Maigret, quand Marine Le Pen dit la même chose, eh bien, naturellement, le résultat, c'est que les accords ne se font pas et que on présente des candidats, le Front National présente des candidats à des endroits où il aurait pu laisser la place tout seul aux maigrettistes, ce qu'il n'a pas fait, du coup, les maigrettistes se présentent. Et quand même, Maigret, qui a été présent, qui a soutenu la candidature de Jean-Marie à la présidentielle, qui a été présent partout, à tous les moments, y compris dans des circonstances où visiblement on voulait pas de lui et où il était quand même présent pour manifester son inconditionnalité à la candidature de Le Pen quand on envoie contre lui un candidat dans sa propre circonscription, c'est véritablement discutable, pour le moins. J'ajouterais que quand Alliot dit entre les deux tours, enfin, ou pas entre deux tours, oui, entre les deux tours des législatives, ou à la veille des législatives, on va virer la moitié des secrétaires de
Oui, mais je pense qu'Alliot a fait une connerie le jour où il a dit ça, il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Bon, moi, je n'étais pas un grand partisan de l'Union patriotique, mais il y avait deux solutions, l'Union patriotique. Ou on la faisait, ou on la faisait pas. Voilà.
Oui, non, je suis d'accord. Moi, j'ai écrit le programme.
Voilà.
Si on disant que c'était une connerie.
Si on la faisait, on ne la torpillait pas à moitié. Mais enfin, tout ça, entre nous, ça dit, tout ça n'est pas facile. Voilà. Tout ça n'est pas facile.
Non, mais il faut, si on veut être parfaitement clair, il faut quand même admettre qu'il y a, il n'y a pratiquement aucune opposition politique, idéologique entre le Front National et le MNR, aucune opposition entre les idées des gens qui ont suivi Bruno Maigret et les gens qui sont restés avec Jean-Marie. Aucune opposition, rien. On ne pourrait pas passer une feuille de papier à cigarette. C'est uniquement une question de personne et une question d'ambition personnelle. Uniquement ça. Alors, c'est quand même dramatique que, dans une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui, où on a au pouvoir un type qui est un ennemi implacable, tu viens d'en donner une preuve en plus avec ce texte étonnant de Challenge, qui est un ennemi mortel, pas pour nous, parce que pour nous, pour le Front National ou pour la droite nationale, finalement, ça a assez peu d'importance, mais c'est un ennemi mortel de la France, c'est un type qui va tuer notre pays. C'est évident, il a commencé à le faire et il va continuer. Il va le dissoudre dans l'Europe et il va le dissoudre dans la pourriture mondialiste. Eh bien, au moment où on peut pourrait récolter les gens qui les cocus du sarkozysme, les déçus du sarkozysme, tous ces gens qui ont cru à cette gueule de, enfin bref, tous ces gens qui ont voté pour lui et qui vont s'apercevoir petit à petit qu'ils ont été cocufiés, trompés, niqués, comme il dit lui-même avec son élégance voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, ils peuvent revenir chez nous, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Sur quoi ils tombent? Ils tombent sur un bateau.
Personne ne peut dire sur quoi ils vont tomber, étant donné que la nouvelle plateforme n'a pas encore été mise en place. Pour l'instant, on pense quand même à nos dettes. C'est pas rien, plus de 6 millions, plus de 6 millions d'euros de dettes. Et je tiens à dire, justement, je t'avais téléphoné pour ça, que les gens qui ont peur en ce qui concerne le remboursement, le Front s'est engagé, les dépenses normales des militants normaux seront remboursées.
Oui. Hein, ça, alors,
par exemple, Henri Dubost qui t'avait fait un petit mot, je me suis renseigné, il dépend de Myriam Bécrout et toutes ces dépenses ont été payées cette semaine. On est quand même quelques-uns là-dedans à avoir le cul propre et à pas partir en abandonnant le bateau en train de couler. Seulement, ça ne va pas être facile. Voilà. C'est clair, ça va pas être facile. 6 ou 8 millions d'euros, ça ne se trouve pas sous les pas d'un cheval. Mais je dois dire que l'échec commence à arriver. Une fois de plus, c'est les pauvres qui ont l'argent.
Toujours.
Hein? C'est pas les riches, c'est les pauvres. Hein? Là, j'ai amené un chèque hier. C'est un type qui était avec moi au Maquis Bonaparte en Algérie, hein, qui est cancéreux à 99%. Sa femme aussi, malade. Il touche, je crois, 350 euros par mois à eux deux. Ben, il a envoyé un chèque de 50 euros. J'en avais presque honte. Ça m'a fait pleurer. Voilà, c'est ça. Mais il faut bien quand même savoir que la politique devient de plus en plus difficile dans notre pays.
Mais tu ne crois pas qu'il y a un problème maintenant de redéfinition du programme, c'est-à-dire
je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va s'y atteler. Hein, très 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 sérieusement. On va essayer d'abord de prendre déjà 8 jours de vacances si c'est possible, et ensuite on va s'y atteler. Mais quand tu parles de la situation du pays, j'en suis bien convaincu, parce que par exemple en ce qui concerne le Cercle National des Combattants, nous déposons tous les ans depuis 20 ans une gerbe sur la tombe de Gueldre au cimetière de Versailles. Pour la première fois cette année, il y avait un gros contingent de flics, de policiers. Je sais pas ce qu'ils faisaient là. Il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public, il n'y a jamais rien eu. Et il y avait derrière eux deux espèces de taupes en noir qui avaient des gueules patibulaires, qui étaient assez désobligeants, qui étaient certainement les représentants dans le mouvement de défense antiraciste ou autre. On n'est pas sorti de l'auberge et on n'a pas fini d'en voir. Je crois que les choses seront assez difficiles. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est l'état actuel de la France. Hein, moi, je ne sais pas si je redémarrerai demain dans un combat politique. Je n'en sais rien. Hein, j'essaierai d'être correct et honnête jusqu'au bout au Front National. Mais je commence à prendre un peu de la bouteille, mais je suis étonné et effaré du nombre de gens autour de moi qui ne veulent pas voir la France telle qu'elle est. Voilà. Hein? J'ai déjà dit 20 fois à ce micro, hein, les gens qui viennent nous raconter au sujet des immigrés, on va descendre dans la rue avec des fusils mitrailleurs, ils descendront sans moi, et les mecs qui disent on va tous les renvoyer chez eux, je leur souhaite bonne chance. Bon, Monsieur Sarkozy...
Oui, ça, sur ce plan-là, Roger Sud.
Attends, je termine cette phrase. Monsieur Sarkozy va se casser la gueule pour une raison primordiale, c'est qu'il ne fermera pas les frontières. Voilà. Et on n'est pas parti pour qu'il les ferme.
L'argument selon lequel... C'est vrai qu'on va pas virer l'immigration à coup de fusil. D'ailleurs, même humainement, on en serait incapable. Mais on peut tout de même maintenir dans le programme du Front, premièrement, le fait qu'il faudra inverser les pompes aspirantes. C'est pas moi qui l'ai inventé, la phrase elle est de Jean-Marie.
Mais moi, dans mon
temps... Arrêter l'immigration, revenir sur les naturalisations abusives et supprimer les avantages.
Mais c'est dans le programme officiel du Front. Oui, mais... Fermeture des frontières, pas de double nationalité, expulsion des mecs qui sont prêts. C'est dans le programme du Front.
Quand c'est dans le programme, c'est une affaire entendue, mais tu sais très bien qu'il y a des gens qui prennent la parole au nom du Front et qui disent le contraire, ou peu s'en faut. Donc, c'est ça aussi qui pose un problème chez les militants ou les adhérents ou les sympathisants ou les électeurs, c'est qu'ils entendent deux sons. Ils disent,
au dernier bureau politique, j'ai pris la parole, je prends toujours d'ailleurs la parole, j'ai dit, le Front National ne peut s'en sortir qu'en appliquant son programme. Ouais. Et chacun doit connaître son programme. Le juif qui vient au Front National, il ne faut pas qu'il se plaigne en disant « j'ai vu un antisémite, il peut peut-être y en avoir un comme il y en a à l'UMP ». Mais le juif qui vient au Front National, il prend le programme du Front National. Bon, l'homosexuel qui est au Front National, qui peut même être élu, dans son blog, il ne parle pas de la gay pride, ce n'est pas le programme du Front National. Donc si tous les gens respectaient le programme du Front National, on ne serait pas dans la mouise où on est. Et moi, mon combat dans les mois à venir, ça sera de rétablir le programme du Front National, y compris ce que certains voulaient virer, parce que l'histoire montre que nous n'existons que parce que nous prenons en compte le passé et le présent de la France.
Ben voilà une déclaration qui me paraît fort roborative et qui me redonne de l'espérance. Merci.
Il vient du vice-président du Front National.
Serge.
Merci, oui.
On lit un petit peu, non?
Écoutez, je voudrais. J'ai notre ami Vincent Werteret qui attend. Je lui avais promis de le prendre au téléphone dès que j'aurai, donc on va le prendre et puis ensuite on posera les questions dès que je serai arrivé à trouver le bon sens. Pourquoi fait le micro?
Le casque audio.
Voilà. Voilà, Jean-Pierre Rondeau nous fait savoir qu'il ne peut pas être là ce soir, mais on essaiera de l'appeler parce que je voudrais qu'il nous explique quelque chose sur l'histoire des impôts sur les...
L'ISF pour les propriétaires.
Oui, c'est ça. Oui. Vincent, vous êtes là?
Oui, bonjour Serge.
Vincent Venter, et bonsoir. Oui, je vous ai demandé d'avoir la gentillesse d'intervenir ce soir parce que vous avez eu l'idée à la fois sympathique et provocante d'organiser, comme chaque année, je crois, une visite des jardins de Versailles le 14 juillet.
Alors, sympathique, j'espère, mais provocante, certainement pas. Ce n'est pas à cause du 14 juillet 1790 que je fais cette visite ce jour-là. C'est en souvenir du 14 juillet 1689. Et qui est ce jour abominable de notre histoire, en lequel, par la faute du Père Lachaise, le Sacré-Cœur n'est pas apparu dans les armes de France.
Oui, pardon, comme c'était demandé
par
Marguerite Marie Alacoque.
Et en sachant bien que Louis XIV n'a jamais eu connaissance de ce dossier.
Alors, nonobstant, quelle que soit la motivation profonde, le 14 juillet, ceux qui n'auront pas applaudir la revue et le pompier qui ne pleurera pas dans son casque, pourront suivre. Est-ce qu'il y a encore des places d'ailleurs pour vous suivre dans les jardins de Versailles?
Oui, bien sûr, le 14 juillet, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent aller voir marcher au pas plutôt que de venir faire de déambulations pérégrines dans les chemins de Versailles.
Mais vous pourriez les faire marcher au pas aussi.
Ce n'est pas dans ma nature.
Et pour ceux qui ne connaissent pas cette visite, cette conférence qui est une splendeur, est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes?
Ah bien,
nous dire ce que c'est en fait.
en deux mots, j'ai découvert qu'il y avait un code qui avait été mis au point par Louis XIV lui-même, utilisant les allégories, les symboles, les signes, et qui l'avait utilisé pour exprimer par son domaine, aussi bien les bâtiments que les jardins, pour exprimer sa foi. Et sa foi est rigoureusement fidèle au Concile de Trente. Il est bien le fils aîné de l'Église. La foi qu'il exprime là est une foi réelle, ça n'est pas une sorte de symbolique pythagoricienne ou que sais-je, c'est absolument la foi tridentine qui est exprimée dans ces jardins.
C'est quand même assez rare qu'on expose, comme vous le faites, le caractère profondément croyant de Louis XIV. L'image qu'on en a en général est très différente. L'image qu'on en donne est très différente.
L'image qu'on a donnée est très différente, surtout depuis le concordat de Pie VII et de notre cher ami Napoléon Bonaparte. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il est mort, le Monseigneur Bentivoglio, qui était le nonce apostolique en Versailles, a écrit au pape pour lui dire « Nous venons de voir mourir un saint, et qu'au moins sa mémoire soit pour nous une bénédiction ». C'est le propre de Louis XIV d'avoir eu cette vie très rigoureusement catholique qui a été absolument détournée par des propos qu'il n'a jamais tenus mais qu'on lui prête et qui ne correspondent en rien à la profondeur de son esprit, de son intelligence, de sa culture et surtout de sa foi.
Cette promenade du 14 juillet, elle s'inscrit dans un programme. Quelles seront les autres dates
prévues lorsque l'on veut venir dans un groupe seront au mois de septembre, le samedi 1er et le dimanche 23. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut consulter l'ensemble des données correspondant à cette visite en se raccordant par Internet sur le site www.amdg.fr.
Alors, vous savez que tous les auditeurs de Radio Courtoisie n'ont pas Internet. Et
dans ce cas-là...
Et dans ce cas, pour ceux qui n'ont pas Internet, peut-être qu'ils pourraient avoir un numéro de téléphone ou une adresse.
Une adresse, oui. On peut m'écrire pour me demander les renseignements. Et donc, on écrit à AMDG, 4 rue Salomon-Reynac, R-E-I-N-A-C-H, 78-100 Saint-Germain-en-Laye.
Et puisqu'il reste des places le 14, est-ce qu'il y a un moyen de se faire connaître rapidement, plus rapidement qu'en écrivant, parce que là, ça va être juste.
En téléphonant, par exemple.
En téléphonant, mais vous êtes bien cruel avec moi, parce que si je donne mon numéro sur l'antenne, je ne pourrai plus jamais dormir de ma vie.
Ah, ça, c'est probable, effectivement, vous serez constamment dérangé.
On vient d'imaginer un procédé qui permet de débrancher son téléphone, ce qui renvoie les gens sur un répondeur.
Mais s'il débranche aux heures où il a envie de s'en servir, c'est embêtant. Non, ce qu'on peut faire peut-être, c'est appeler le Libre Journal dans l'après-midi de demain et dans l'après-midi de vendredi au 01 45 23 51 01 et demander simplement ce qu'il faut faire pour participer à cette...
01 45 23 51 01.
Mais il faut appeler à partir de 15h.
Plus simplement, parce que là ça risque de vous déranger beaucoup, plus simplement dire que les personnes qui souhaiteraient venir à la visite du samedi 14 juillet n'ont qu'à se présenter à 11h15 près de la petite guérite où se louent les barques du Grand Canal.
D'accord. À la guérite du Grand Canal. La guérite du Grand Canal, on a une chanson. Ça.
Oui, et se présenter là avec un pique-nique dans leur sac et dans leur voiture éventuellement, puisque nous avons un pique-nique qui coupe la visite en deux parties.
À quelle heure avez-vous dit, Vincent ?
À 11h15.
11h15. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous à 11h15 le 14 juillet à la guérite du Grand Canal du Château de Versailles, enfin des jardins du Château de Versailles, ou le 1er septembre, ou le 23 septembre, ou encore, si vous voulez fixer une date vous-même et que Vous avez un groupe, quel est le minimum pour un groupe, Vincent?
Lorsqu'on me fait savoir qu'un groupe a envie de faire cette visite, je fais toujours en sorte d'être disponible.
Bon. Donc on vous écrit à AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, 4 rue Salomon Reinhardt, 78100 Saint-Germain.
Et pour les internautes, amdg.fr.
Et on n'appelle plus au Libre Journal.
Voilà.
Voilà, et on n'appelle pas au Libre Journal.
Sauf pour s'abonner, bien sûr.
Je vous remercie beaucoup, Serge.
Merci. J'aime bien que vous puissiez présenter cette promenade à mon micro, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je voudrais le dire aux auditeurs. Ça peut paraître un peu réclameux ce que je viens de faire, mais c'est pas du tout ça. C'est véritablement un grand moment de plaisir, de d'intelligence, de culture, de civilisation.
Ça n'a rien à voir avec les visites lambda. Voilà, c'est une visite exceptionnelle, tout simplement.
Et puis c'est tellement nouveau et tellement révélateur que c'est un véritable régal. Merci. À bientôt, Vincent.
À très bientôt et au revoir à toutes les personnes qui sont autour de vous maintenant.
Qui vous saluent aussi.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Voilà, alors nous avons un message. Ah oui, on n'a pas parlé de ça quand même, on est assez ingrat. On n'a pas parlé de la merveilleuse journée qu'on a passée, d'ailleurs avec Vincent entre autres, à Orange grâce à Anne Brassier.
Et à la mairie d'Orange, il faut le dire, maintenant que Olympe est parti.
Non, c'est pas pour ça que je le dis pas, c'est parce que je vois pas bien ce que la mairie d'Orange, à part nous avoir donné l'autorisation de nous installer dans un endroit où elle pouvait pas empêcher de le faire. Je vois pas très bien ce qu'ils ont fait entre nous. Étant donné qu'il y a eu aucune publicité locale qui a été faite. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils ont fait simplement des petits tracts pour dire qu'il y aurait des écrivains qui seraient présents. Et tous les écrivains dont les noms étaient indiqués étaient absents, bien entendu. Et tous ceux qui étaient là n'étaient pas indiqués. Mais il faut dire aussi que c'était des gens qui étaient aussi compromettants que Bernard Anthony,
Serge de Beckett,
Jean Madiran, Patrick Goffman.
Il en a tout compris.
La mairie d'Orange, par ailleurs, incontestable sur le plan de la qualité de la gestion municipale, étant plutôt en faveur de M. de Villiers, on n'a pas jugé utile de mettre en avant les abominables fascistes que nous sommes. Je comprends très bien que le maire de...
Il y a une cohérence.
D'Orange ait fait preuve d'une cohérence aussi grande. Mais n'empêche que ça nous a quand même permis...
Le quotidien, j'interjette que le quotidien local La Provence s'en est chargé de nous mettre en vedette.
Oui, il nous en met en vedette, mais le lendemain de la réunion.
Et bien sûr. Mais alors, dans un article, je crois, l'article le plus stupide et le plus inexact que j'ai jamais lu. C'est-à-dire qu'ils sont ingéniés à faire un minimum de 3 fautes par mot.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on vous nommait, on faisait une faute à votre nom, on vous donnait une qualité qui n'était pas la vôtre, et ainsi de suite. Et ça commençait par « ils ont osé ».
Ils ont osé.
La Provence s'indignait, s'étranglait d'indignation, parce que Monsieur Bompard, au maire d'Orange, avait osé inviter Anne Brassier, Madiran, Beketch et compagnie.
Il ne faut pas en vouloir à la journaliste qui a fait cet article, parce que véritablement, elle a des raisons d'en vouloir au monde entier, et à mon avis, elle a même des raisons d'en vouloir beaucoup à la nature.
Tout s'explique.
Et alors, mais ça nous a permis de rencontrer des amis. Moi, j'ai eu la joie de rencontrer un ami que j'avais perdu depuis 40 ans, quand même, l'adjudant-chef vieux Melchior Maurice, qui était mon chef.
On le salue, il est à l'écoute, je pense.
Alors, on le salue, parce qu'il est certainement à l'écoute.
De Vaison-la-Romaine, si je me souviens bien.
Ouais. Et puis, nous avons vu également Jacques et Justine Reboul, qui sont venus de l'Ardèche pour nous voir et qui nous saluent tous par un message.
Serge, j'ai vu une dame qui m'a affirmé qu'elle venait de Paris pour cette réunion Orange. Alors naturellement, homme de peu de foi, je ne l'ai pas cru, mais le lendemain, je l'ai retrouvée à la gare. Elle est venue de Paris jusqu'à Orange pour bavarder 5 minutes avec nous. C'est quand même très touchant.
Bon, cela dit, la ville d'Orange, j'étais un peu désagréable au début avec la mairie, mais il faut reconnaître que c'était très bien, c'est vrai. La ville est charmante. On a découvert un hôtel. Tiens, je vais faire un coup de pub pour un hôtel.
L'hôtel
Saint-Jean. Vous allez à Orange, il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Saint-Florentin.
Saint-Florent. Rue Mazo, qui est toute courte. Alors, il y a un restaurant à 20 mètres qui s'appelle Le Basilic, place des Herbes. Ouais. C'est délicieux. Ce sera d'ailleurs le choix de la rédaction dans le prochain numéro du Libre Journal imprimé.
L'hôtel, c'est extraordinaire. On a l'impression d'être chez une vieille tante. ou chez une vieille grand-mère, ou pas une vieille grand-mère, mais plutôt une vieille tante artiste comme ça qui aurait pris ses pinceaux. Alors il est complètement décoré, c'est des petites chambres biscornues, il y a même une chambre avec un lit à baldaquin.
Saint-Florent, il s'appelle.
Saint-Florent, dans une toute petite rue.
C'est ça n'a rien à voir avec le Saint-Jean qui est un peu comme ça aussi, non?
Non,
c'est mieux.
Ah, c'est mieux.
C'est autre chose, d'accord.
C'est différent, oui. Mais c'est très famille, c'est tenu par un monsieur et sa fille.
Myriam, adorable.
Oui. Très très gentil.
Vous avez commencé à être tenu par une vieille tante, j'essayais de trouver des repères.
Oui, non, c'est bon.
C'est raté, encore raté. Ils ont un site internet d'ailleurs, ils sont rue Mazot à Orange, à 50 mètres du théâtre antique, et ils ont un site internet dont l'adresse est, je crois, hôtelsaintflorent.com.
Voilà, ça c'était de la vraie pub, mais la pub méritée. Si vous allez à Orange, descendez là. Vous serez très bien reçu. Ils sont très amis avec la mairie, en plus. Ils ont bien raison. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Oui, alors, il y avait des questions que vous vouliez poser.
Non, simplement un commentaire. Résumé, je pense que l'échec de M. Le Pen n'est pas dû à sa campagne, ni aux propos de son entourage, mais que les gens ont tout fait pour que Ségolène ne passe pas.
C'est possible, oui, mais...
Et puis aussi,
aurait pu dire la même chose. On peut dire la même chose à chaque élection. Alors, c'est pas la peine de présenter des candidats du Front National, si c'est ça.
Et puis un autre dit, je crois que le grand responsable des déboires du Front National, c'est l'âge de Jean-Marie Le Pen.
Non, ça tient pas debout. Je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout une question d'âge. C'est pas une question d'âge. C'est une question d'entour, âge. C'est pas la même chose.
Tiens, il y a une question précise, alors à quel nom faut-il libérer le chèque pour le front? Roger est parti. Et à quelle adresse l'envoyer?
C'est rue Vauguyon à Saint-Cloud.
4 rue Vauguyon.
Ah bon,
ça arrivera
c'est
quand même.
C'est pareil.
Et ça doit être l'ordre, c'est Front National.
Bon, frontnational.com et voilà.
Mettez-le à l'ordre de Serge de Béquette.
Oui, mais avec la politesse, là, je suis en train de penser, je vais me dévouer.
C'est combien, Saint-Cloud? 92 210,
oui. On est trop.
Affaire suivante.
C'est tout.
Que Serge de Becquetch nous redonne l'adresse où l'on peut écrire pour soutenir le conseiller municipal qui avait crevé une capote géante
Je ne l'ai pas sous les yeux. Si quelqu'un veut me l'adresser, je la transmettrai de vive voix à la radio. Il était récemment dans l'émission de... Je sais pas, c'est Gérard Marin, c'est chez qui il était.
C'est Menot, mais...
Enfin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, monsieur Van Covenberg nous signale, c'est vrai, j'ai été un peu rapide tout à l'heure, que c'est son père, André Van Covenberg, qui a fondé le CIELT, mais j'ai pas dit que Raffard l'avait fondé, j'ai dit qu'il en avait été le président. Donc, il a fondé le CIELT et qui en est le premier président. Et c'est lui qui avait obtenu la diapositive grandeur nature offerte par un laboratoire américain. Voilà. Mais c'est Daniel qui se promenait avec pour faire ses conférences. Donc, on a raison tous les deux. Et je ne voulais surtout pas diminuer le mérite de M. Van Covenberg, qui était un animateur très actif et très, très productif du CIELT pendant de longues années. Voilà, quoi d'autre?
C'est tout. On nous dit que 6 rue Vauguyon, c'est l'adresse de National Hebdo, donc c'est 4, voilà. Par conséquent, rue Vauguyon.
Ça change tout, en effet, oui.
De toute façon, ça n'a pas grand importance.
Si avec les gens de National Hebdo, s'ils reçoivent les chèques, ils vont les encaisser, oui. C'est pas comme tous les journalistes.
Pour le journal.
Voilà.
C'est la même maison, quand même.
Voilà. Bon. Donc, je crois que
c'est... Tiens, une question.
Alors, non, il y a
pose,
ça que je voulais lire quand même. Ça, c'est un beau message. Ça s'adresse à moi, je suppose. Si le Front National a échoué, vous en êtes responsable. Parce que vous n'avez pas cessé de mettre de Villiers en avant.
Ben non. Il y a des erreurs là qui parlent. Ça vous est pas destiné.
Engueuler tous les imus.
Je
regrette pas d'être venu.
On vous pose une question. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la démission de Jacques Lang du PS?
Je m'en fous. Êtes-vous de force.
Êtes-vous prêt à le soutenir?
Il n'a pas démissionné.
Il n'a pas besoin de soutenir.
Non, mais attendez, il n'a pas démissionné du tout. Il a démissionné du groupe à l'Assemblée. Il n'a pas démissionné du parti.
Et du Bureau national.
Il n'a surtout pas démissionné de son siège de député.
Bien sûr.
Il n'est
pas fou, mec.
Non, mais je m'en fous, Lang.
Voilà.
Lang, il est nocif en soi. Il n'est pas nocif en tant que militant socialiste. Il est nocif en soi.
Et la preuve qu'il est nocif, c'est que Sarko
le
courtise.
Vous le mettez dans une tasse à café, dans une tasse à moka, dans une bouteille de coca.
Il ressort une vieille dentelle.
Dans une bouteille de whisky, c'est toujours de l'arsenic. Donc l'angle, vous le mettez au RPR, ou à l'UDF, ou... Et, sauf, naturellement, quand il est au Front National et qu'il s'appelle Lang Karl.
Là, c'est autre chose.
Là, il est bon, celui-là, vous pouvez y aller.
Non, mais l'autre, c'est une vieille dentelle aussi, en même temps que l'arsenic.
Vieille dentelle, il est vieille dentelle. Monsieur de Kelsey, il faut le lire.
C'est une grosse méchanceté. Non, non, c'est pour vous. C'est pour vous informer.
Encore faudrait-il que ça soit lisible. Monsieur de Kelsey, depuis 8 ans que vous...
Vous acharnez.
Acharnez à démolir le FN, vous n'êtes pas fatigué. De ce rôle répugnant.
On avait comme le vice-président tout
la
à l'heure, hein, faut pas
exagérer. La fabuleuse de Maigret en 1998, c'était déjà vous. En tant qu'adhérent du Front, je me demande en quoi le Front bloque le flash. Occupez-vous donc de vos propres affaires. Mais c'est gentil comme
ça.
C'est madame Nina Gondef qui m'écrit, parce qu'elle signe.
Ouais, déjà, elle est courageuse, elle sait.
Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mais 98, c'était moi. Vous avez vu un peu la puissance du mec ?
Eh oui.
D'une seule main, j'ai foutu le Front National en l'air.
Un vrai démon.
Un énarque polytechnicien qui s'appelait Maigret. Je l'ai pris, je l'ai orienté contre Le Pen. J'ai tenu la main qui tenait le poignard.
Ben vous avez pourtant fait tout ce que vous avez pu pour que ça n'ait pas lieu, cette scission. Oui, voilà.
Quelle puissance.
Et moi aussi, voilà.
Madame Nina Gondef, visiblement, n'est pas au courant
de tout.
Pour
nous, on n'a pas réussi.
Voilà, bon, bah, écoutez, les bêtises, ça suffit. On va peut-être passer à des choses. On pourrait peut-être demander à François Robot de nous appétiser.
François, mais vous avez... Très volontiers, cher ami.
Voilà.
François Robot va s'approcher d'un micro, on l'entendra nettement
tout
mieux.
Tout le monde se lève pour laisser sa place à François Robot, c'est merveilleux.
Voilà, je crois savoir qu'il se penche sur le sort des nombreux automobilistes qui parcourent la France en tous sens en ce moment.
Oui, Patrick, parce que la semaine dernière, j'avais parlé du volant. Je profite d'être à l'antenne pour redonner l'adresse. Il y a des auditeurs qui l'ont mal noté. C'est donc le volant, deux jeunes qui ont racheté le restaurant d'un vétéran pilote automobile, pilote moto, qui est âgé aujourd'hui de 95 ans, c'est 13 rue Béatrix Dussane, à Paris, dans le 15e. Alors, j'ai été, non pas choqué, mais on parle de plus en plus du vin. On va même jusqu'à prévoir d'abaisser le taux d'alcoolémie.
Oui.
Donc, est-ce bien raisonnable ?
Autorisé, vraisemblablement. Au volant, vous voulez dire ?
L'alcoolémie au volant, bien sûr, oui. Je passe du volant
au volant.
Notre volant à nous. On a tous un volant ou un guidon. Les vélos arrivent dimanche. J'en profite pour vous signaler qu'on leur a donné aucune consigne précise. Mais il y a une particularité, c'est que ces braves cyclistes sont tenus à respecter, et tant mieux d'ailleurs, le code de la route.
Alors il y a une autre particularité, je ne sais pas si vous en êtes informé, c'est que si vous avez le permis de conduire et que vous commettez à vélo une infraction au code de la route, on retire votre permis de conduire.
C'est ce que je voulais vous préciser. Et on commence par vous retirer des points. Feu rouge, c'est 4 points. Le tribunal, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas de permis, évidemment, ne vous interrogez pas. La réponse est toute prête. Vous n'aurez pas de points de retrait sur votre permis.
Donc, est-ce que ça s'applique?
Ce qui est important, c'est quand le flic vous dit votre permis de conduire, vous dites, je ne l'ai pas. Si j'avais le permis de conduire, je ne roulerais pas à vélo, espèce de crétin.
Est-ce que ça s'applique aux coureurs du Tour de France?
Bonne question, mon cher Patrick, on va leur poser la question. On va essayer d'avoir un direct avec la route du Tour, mais à cette heure-là, ils sont arrivés, ils sont couchés et peut-être en train de se faire masser. Donc j'en reviens à une grande actualité qui concerne l'œnologie. On doit boire moins, nettement moins, et boire mieux. Alors tout le monde s'empare du système. Une grande surface de Bordeaux qui s'appelle la Winery. Traduction, s'il vous plaît.
Je ne sais pas comment on pourrait traduire. La vinasserie.
La pinasserie.
Oui, j'ai eu l'occasion de visiter des wineries aux États-Unis, dans la Sonoma Valley et dans la Napa Valley. C'est assez impressionnant parce que c'est les tamberres à côté, c'est de la rigolade. Il y a le raisin qui rentre d'un côté et les fûts de la forêt de Troncet, des fûts de Pologne qui sont extraordinairement neufs et qui coûtent très cher, et tout de suite les bouteilles, enfin bon. Donc ce wine ce propriétaire de cette winery vous demande, moyennant finance, de vous donner votre signe œnologique. On quitte l'astrologie pour l'œnologie. Alors, vous aurez pour la coquette somme de 15 francs, le signe œnologique classique, 15 euros, pardon, oui, excusez-moi, je suis encore resté au franc, ça me joue que des tours, et pour 25 euros, le signe œnologique grand cru.
Et on ça, va... Vous êtes quoi, Bordeaux à ce moment-là ?
Non, vous êtes le tendance, l'éternel, le sensuel, l'esthète, le gourmand, le musclé. Alors le musclé, lui, il est solide comme un roc, gorgé de soleil, je concentre tous les efforts de la vigne et des vinificateurs, je suis charnu, puissant, mais séduisant, et cela me suffit. Je pense que bon, là peut-être faudrait pas abuser de la chopine, parce qu'on sait plus où on va aller. Une très mauvaise nouvelle également, c'est que, voilà, l'édition du célèbre... dégustateur américain, monsieur Parker. Il revient, Parker.
Je le connais Parker.
Ben oui, je le connais Parker. Et les Bordelais apprécient beaucoup Parker. Il défait les cours. Et donc, le guide Parker chez Solar est paru pour la dernière fois en 2001. Et il reparaît cette année. Une édition entièrement actualisée et très attendue. Nous, on l'attend pas vraiment, mais enfin, bon, c'est pas très grave. Il y a plus de 10 000 vins sélectionnés et notés. C'est-à-dire qu'il a tout dégusté, le brave homme.
Il doit être dans un bel état.
C'est du gorgeon, il doit pas être mal, oui. Il est connu dans le monde entier.
J'espère qu'il se déplace pas en bagnole.
Et alors, j'ai assisté dans différents châteaux du Bordelais. Parker s'annonce. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le ménage, comme si c'était une visite officielle, présidentielle, ou le préfet de la région. Et on prépare les verres, on prépare les bouteilles. Il faut vraiment, à mon avis, être très nul pour lui donner un vin qui soit éventuellement bouchonné, parce que on peut toujours enlever les bouchons, les changer. Ça, c'est de la cuisine vinicole au plus haut niveau, classique. Voilà.
Comment vous expliquez, François Robotte, que ce garçon qui n'avait pas... ni touché ni même vu un verre de vin à 20 ans soit devenu effectivement une espèce de pape, parce que vous en parlez en plaisantant, mais il faut que les auditeurs comprennent bien que ce monsieur Parker fait la loi sur le marché international.
Bien sûr, et personnellement je le déplore parce que...
Mais comment vous l'expliquez ?
L'explication c'est que ce sont les châtelains bordelais qui ont beaucoup apprécié ses commentaires. Je crois que le marquis veut dire quelque chose aussi à propos.
Il y a ce fameux film dont le titre m'échappe, mais sur le vin dans le monde,
où on Mondo
explique...
Vino.
Voilà, Mondo Vino, on explique le système Parker. Oui. Je pense qu'il est passé à la télévision et qu'il repassera. Mais si ce film est dans votre quartier, quelque part, allez le voir, vous comprendrez tout.
Voilà, il y a plus de 10 000 vins sélectionnés et notés, plus de 1 400 domaines, 270 appellations, 130 000 exemplaires du guide vendu. Patrick, ça marche très très fort. Un plan média exceptionnel, présentoir bouteille de 12 volumes avec des coupes affiches spécifiques, c'est formidable. Quoi.
Il a inventé une industrie.
Une industrie. Alors, ce n'est pas tout. Toujours chez Solar, deux charmantes consoeurs, des journalistes qui se prénomment Linda et Valérie de Lescure, Linda Grab et Valérie de Lescure, vont sortir, là, dans quelques mois, à la fin de l'été. Dis-moi qui tu es, je te dirai quel vin boire. Alors, je vais tout de suite vous interroger.
Ah, c'est comme l'autre, alors.
Ah, ben, exactement, oui. Victoria, vous ne buvez jamais ?
Ah, si.
Ah, bon, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous buvez très régulièrement, dès que vous le pouvez, c'est vital ?
Oui, c'est vital.
Bon, merci. Non, mais attendez, répondez-moi à côté de la plaque, qu'on rigole un peu. Je vais interroger le marquis. Chez vous, vous avez zéro bouteille ?
Non, j'ai une cave.
Ah bon ? Une bouteille, celle que vous venez d'acheter ?
J'en ai depuis un moment, je n'achète pas tous les jours.
Patrick, vous débouchez la bouteille, alors vous ne débouchez jamais de bouteille ? Vous mettez une croix, il y a des cases à cocher. C'est
Avec les dents, François.
Serge, en cassant le goulot à la russe.
Ah oui, à la russe, avec un sabre de cavalerie. Oui.
Voilà, et puis avec votre Charles de Gaulle. Mais alors malheureusement, mesdemoiselles, nous excusons, nous n'avons pas encore acheté de Charles de Gaulle. On attend qu'il soit...
C'est Charles de Gaulle, quand même.
C'est quoi ?
Non, je sais pas.
C'est le tire-bouchon qui lève les bras, comme ça.
Ah non, j'ai cru, moi, je pensais au porte-avions qui avait des problèmes d'hélice. Non, je suis largué. Vous, monsieur, notre ami libraire, vous achetez du vin, jamais on vous l'offre ?
J'en achète régulièrement.
Bon, ça m'intéresse pas. directement à la propriété ?
Oui, exactement.
Ou alors souvent en primeur ?
Non, propriété.
Bon, alors voilà. Donc il y a une foule de questions. Alors on en arrive, évidemment, quand vous avez rempli tout ce questionnaire, parce que la France est en fiche, il y a la description du buveur, et en plus, ensuite, on va vous indiquer quel type de vin vous devez boire. C'est-à-dire qu'on vous prend un peu pour des billes, mais ça c'est...
Alors, j'avais compris.
Il y a même des citations. Mon vin, je le veux capiteux, fort, généreux, un vin de ripaille, un vin de fête, pas un remède contre la somnolence ou la migraine. Qui a écrit ces...
Un Bujordeau, probablement.
Non, Claude Sarraute, journaliste française, née en 1927. Il y en a d'autres, et puis je vais arrêter là, parce que sinon on va se faire peut-être remonter les bretelles. La gamme des soins de Caudalie. Savez-vous ce que sont les soins de Caudalie?
C'est un compositeur, Caudalie.
Ça, je ne connais pas, celui-là. Non, c'est la vinothérapie, c'est-à-dire qu'on
vous... C'est le spa avec le pinard. Oui.
Voilà, exactement. Le pinard sur la peau. Quelques verres quand même à l'intérieur pour faire remonter la température.
Ah, c'est bien. Ça.
Voilà, alors donc tout est là. Le picoleur. Là, des auditeurs se reconnaissent, êtes-vous picoleur? Alors, la description du buveur, vos certitudes, vous les déclamez à chaque levée de coude. Nous, jamais. On chante de temps en temps, mais rarement. Boire du rouge, c'est bon pour la santé. Boire du jaja soutient le vigneron. Boire de l'eau, c'est bon pour les malades. J'en profite quand même pour vous dire qu'il y a quelque temps, il y a eu un disque, avec un groupe du célèbre accordéoniste Gilou, qui chantait « Allons, viens boire un petit coup à la maison oui. ». Je crois qu'on va suivre ce conseil très précieux. On ne va plus boire que des coups à la maison, parce que quand on va être appelé à souffler dans le ballon, ouais. Ça va quand même faire des dégâts.
À condition qu'ils mettent pas des flics dans les couloirs de la maison. Parce...
Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage. « Dis-moi qui tu es, je te dirai quel vin boire » par Linda Grab, Valérie de Lescure, aux éditions Solar. Et puis, j'ai piqué dans la revue de la Confédération nationale des glaciers. Il paraît que le beau temps revient, donc la consommation des glaces devrait augmenter d'une manière relativement agréable.
Ça va pas être difficile, parce que j'écoutais hier une information selon laquelle les Français boivent en moyenne la valeur d'un dé à coudre de crème glacée par jour.
C'est pas beaucoup, ça.
C'est pas énorme. Hein.
Alors donc, dans cette revue, qui est une revue professionnelle, ça s'appelle Les glaces de l'extrême, et les Japonais qui sont avides de sensations fortes, on le savait, ils l'ont prouvé déjà, malheureusement, à plusieurs reprises, qu'ils peuvent déguster une glace au cactus. Oui. Pourquoi pas? Oui. J'espère qu'ils ont retiré les piquants.
Oui.
À la langue de bœuf et même au serpent à sonnette. Alors, il y a un musée de la glace qui vient d'ouvrir à Tokyo.
Ça donne les boules. Hein.
Oui, et pour la somme de 1050 yens, soit 7 euros, là je ne me trompe pas, il s'agit bien d'euros, 7 euros, le gastronome Bridé, le camarade chinois, a également le choix entre la crème glacée à la crevette, aux nouilles chinoises, non mais c'est très sérieux Serge, vous n'avez pas le droit de rire, à l'aubergine rôtie ou au wasabi. What is wasabi?
Je peux compléter votre information.
Oui, Patrick.
La grande multinationale américaine Häagen-Dazs, que tout le monde connaît parce qu'elle est très puissamment implantée en France.
Et qui garde le secret de sa fabrication.
Oui, se bat sur ce marché japonais avec une glace au thé vert.
Oui, on en trouve sur la carte de quelques restaurants de l'Hexagone. Oui. Oui. Alors là, pour parler thé, j'en parlerai une autre fois. Le wasabi, c'est une moutarde au réfort. C'est une moutarde très forte. La fameuse moutarde verte. Le marquis connaît parfaitement. Ouais. C'est ce qui accompagne, vous qui adorez, Serge, les sushis.
Délayé dans de la sauce de soja, on trempe son...
C'est ça.
Tous ces sushis.
Lesquels sushis? Alors le commentaire, quand même, c'est que c'est franchement dégoûtant, mais cela vaut la peine d'essayer. Donc, si vous avez la chance d'aller à Tokyo, ou au Japon et goûter les glaces de l'extrême par la face nord.
L'extrême glace. Merci François, merci beaucoup pour tous ces bons conseils. On voit que c'est un univers vraiment intéressant, hein, tout ce qui...
Mon conseil un peu désespérant quand même.
Bah là, non,
on a vaguement envie de se foutre à l'eau, si j'ose dire, après cette chronique œnologique.
Avant, pour inaugurer sa chronique, enfin pour commencer sa chronique, François nous a donné l'adresse d'un bon restaurant, donc on a toujours la ressource d'aller dîner ou déjeuner au volant.
13 rue Béatrice, dans le 15e. Le menu carte entrée plat, c'est très à la mode aujourd'hui, au plat dessert, 21 euros, hors boisson. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus.
Et ne demandez pas de glace au wasabi.
Non, j'ai déjeuné tout à fait par hasard à midi au volant. Je ne cache pas, j'ai payé mon addition. Je l'ai là d'ailleurs, si vous voulez vérifier. Avec ma fausse carte de crédit, mais ça vous n'êtes pas obligé de le dire. Il y avait des lecteurs, des auditeurs de Radio Courtoisie. Ah.
sûr. Les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous tapent sur les doigts, qui vous tapent sur les doigts. On ne dit pas le taux d'alcoolémie, mais soit l'alcoolémie ou alors le taux d'alcool dans le sang.
Mais écoutez, ouais. n'ai jamais dépassé 0,89, donc je vais m'entraîner pour voir si je peux aller un peu plus loin et à nouveau avoir un retrait de permis. Non, je plaisantais.
Ce qu'on peut dire au passage, c'est que 2% si on mange par exemple des fruits très mûrs, des pêches très mûres, on mange 3 pêches très mûres, et quand on se fait piquer dans la demi-heure, on a plus de 2%. Hein.
Oui, rapidement, oui.
C'est extrêmement rapide. Donc,
je voulais préciser que il y a une commission à propos de l'abaissement éventuel de l'alcoolémie. C'est bien ce que
correct.
Comme ça, correct. Victoria, c'est correct ce que je viens de dire. Qui a été confié à un très grand journaliste, qui est Monsieur Namias, le patron de l'information de TF1.
Conflit d'intérêts, Serge de Beketch, qu'en pensez-vous, écoutiez?
Non, j'écoutais pas, j'étais en train de lire avec accablement un message d'auditeur. Il y a vraiment des moments où on se demande si on perd pas son temps, sa vie, ses nerfs, son argent.
Serge, on l'a dit 100 fois, a plusieurs centaines de milliers d'auditeurs et quelques dizaines qui ne comprennent rien et qui tiennent à exprimer qu'ils comprennent rien.
C'est hallucinant, ça. Je suis maigrettiste et je trouve très intelligent les propos de Roger Hollande, ça j'en suis content. Et je suis en colère contre Beketch de sous-entendre que Maigret est derrière la scission. Beketch et Brignot qui a écrit dans son journal qu'il lise Jean-Marie Mathieu, vous appelez au don pour le FN, quand on sait ce que... Alors là, je suis déçu par M. de Beketch, je le croyais plus honnête que M. de Beketch invite Bruno Maigret qui n'a pas beaucoup la parole.
On l'a invité que 2 fois le mois dernier, alors il est temps d'y mettre bon ordre. Bon, je sais pas pourquoi on lit ça, franchement.
Je vais me mettre au tricot, tiens, ou au crochet, peut-être. Je vais essayer de faire du crochet.
Serge, j'insiste, mais vous n'avez pas répondu à Patrick. Je vous ai signalé que la commission qui est chargée d'étudier l'abaissement du taux d'alcoolémie à 0,02...
Non, d'alcoolémie, vous avez oublié votre leçon déjà.
Ah ben non, moi je retiens mal.
Le taux d'alcool ou l'alcoolémie?
Alors l'alcoolémie à 0,2, le responsable de cette commission d'enquête, c'est le patron de l'information de TF1, monsieur, je crois que
Robert Namias. Robert Namias. Et je vous demandais, Serge, s'il n'y avait pas là, par extraordinaire, un petit conflit d'intérêts entre ce gros support de publicité et une fonction étatique? Non.
Oui, enfin, ce serait mieux de s'abstenir de ce genre de compromission, je crois.
Ce serait bien la première fois de la part de TF1.
Mais il faut pas regarder TF1. Hier, par hasard, j'ai regardé le programme de TF1. C'était presque l'imagination. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord un truc qui s'appelait comment... Enfin, on filme des gens dans un dortoir, des jeunes, des filles, des mecs dans un dortoir, à moitié à poil, en train de s'engueuler, de se traiter de sale con, etc. Ça, c'était la première émission de la soirée. La deuxième émission de la soirée, c'était des filles, des mecs à moitié à poil dans la jungle, en train de se traiter de sale con, parce qu'il y en avait un qui avait raté la pêche à la morue, ou je ne sais quoi, ça s'appelle.
C'est pas ce qui manque.
Pourtant, il y avait du gibier. Non, mais c'est hallucinant. Quand on se rappelle ce qu'a dit le patron de cette société TF1, qu'il vendait de l'espace public, de l'espace de cerveau
disponible à Coca-Cola.
À Coca-Cola. Mais c'est pas possible de pas vendre un truc qui. Les gens qui regardent ça, ils n'ont pas de cerveau, donc il n'y a pas d'espace libre.
C'est vrai que TF1, c'est une maison de maçons.
Ah oui, ça je sais. Il était grand chevalier porte-glaive.
Oui,
faites allusion à Bouygues.
Le lait.
Oui. Grand chevalier porte-glaive à la grande loge nationale française à l'époque où moi j'étais un petit apprenti de rien du tout.
C'est des maisons de maçons.
Oui, monsieur Bouygues est un maçon. Oui.
Les maisons de maçons, ce n'est pas de la pub sur TF1. Ah bon? Je pensais que vous alliez exploser de rire.
Non, mais mon rire est très intérieur en ce moment.
D'accord.
Voilà. Alors, l'adresse du monsieur qui crève les préservatifs de 8 mètres de haut pour ramener le maire de Taverny à une conception plus modeste de ses performances possibles.
Et qui est poursuivi.
Et qui est poursuivi pour ça, et qu'on peut aider ou soutenir, c'est monsieur Alexandre Simoneau, S-I-M-O-N-O-T, 1 rue Jean 23, 95-150. Voilà.
Taverny.
Taverny.
Et donc, à propos de procès, où en est l'éventuelle libération de Michel
pardon.
L'éventuelle libération de Michel Lajoie.
Ça, c'est quelqu'un qui ne lit pas le Libre Journal.
Voilà, je ne le dirai pas parce que vous n'avez qu'à vous abonner au Libre Journal.
Ça fait une pleine page dans le Libre Journal numéro 412, dont je ferai la promotion avant peu, si Serge le permet.
Michel Lajoie attend sa libération, qui devrait intervenir assez rapidement, mais qui est subordonné à des conditions que je vais vous lire parce que ça vaut vraiment la peine. Interdiction d'entrer en relation avec tout parti politique ou groupement paramilitaire ou non, d'extrême droite ou prônant la discrimination raciale ou le révisionnisme. Interdiction de paraître dans toute manifestation publique. Il n'y a même pas le droit d'aller à la Gay Pride, par exemple. Hein? Supposé qu'il est en libre, ben non. De diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur qui porterait ou tout ou partie sur l'infraction commise le 30 novembre 1987 et s'abstenir de toute intervention publique relative
l'infraction.
À cette... Hein?
L'infraction.
Oui.
20 ans de cabane pour une infraction.
Et il répète, s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction. Voilà. Alors, je signale quand même que quand on lit ce texte, on se demande qui rédige les arrêts, parce que je vous rappelle que ça commence par interdiction d'entrer en relation, de faire ci, de faire ça, et de s'abstenir de toute intervention publique.
Alors, c'est l'inverse.
Donc, il est obligé d'intervenir. Voilà. Voilà.
83%.
Ça, la justice est une chose sérieuse.
83% de succès au bac. Cherchez l'erreur. 40% d'analphabètes en sixième, 83% de bacheliers en terminale. Ah, étonnez-vous qu'il y ait des petites fautes de français.
Je vais vous raconter mon histoire que je vous ai pas racontée la semaine dernière et qui est très courte. C'est les parents qui viennent engueuler le professeur parce que l'instituteur parce que le môme a de très mauvaises notes. Et le gars excédé leur dit, écoutez, vous vous êtes mis à deux pour faire un imbécile. Je vais pas faire un ingénieur à moi tout seul.
Voilà. De toute façon, c'est une histoire qui date. Maintenant, il n'y a plus de notes.
Ah bon.
Il y a A, B, C, D, E.
Si, il y a des notes du ministère pour les professeurs qui leur disent « Tenez compte de ce qui est positif dans les copies et ne tenez pas compte de ce qui est négatif. » Et ça va, c'est-à-dire qu'on leur ordonne de donner le bac à tout le monde et ça va jusqu'à surveiller et sanctionner les professeurs qui ne tiendraient pas compte de ces notes.
Alors, je comprends enfin comment, l'autre jour, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision, on nous a présenté aux informations un jeune garçon, probablement très brillant, qui avait passé son bac avec mention très bien et la moyenne de 20,34.
Ah oui, ah, quand même.
Donc, 20,34,
c'est... Je souffre beaucoup parce que mon jeune n'a pas été foutu d'avoir son bac, là, ça m'inquiète. Alors. Mon neveu n'a pas eu son bac à 20 ans.
Il faut y mettre de la bonne volonté.
Moi non plus.
T'inquiète pas.
Peut-être qu'en rendant copie blanche, on peut le rater, ou alors une erreur administrative, comme il y en a. Il y en a parfois.
Il faut faire comme moi, il faut répondre simplement. Simplement, quand on vous demande les effets des courants radioélectriques sur les muscles, vous dites, quand on fait passer du courant électrique dans une grenouille, elle bouge. Ouais, j'ai répondu ça, j'ai eu un.
Pour l'écriture.
Pour l'encre des pensées.
Jean-Louis.
Je peux donner, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, le numéro de téléphone.
Avant la coupure technique, je me permets de préciser, Victoria.
Le numéro de téléphone de M. Rondeau, oui. Qu'il a envoyé tout à l'heure. Alors, c'est 01 44 51 62 21. Voilà. Et puis, l'adresse de M. Simoneau. Le perceur de préservatifs géants, on vient de le dire, mais on nous demande de le redonner. Alexandre Simoneau, 1 rue Jean 23, 95 150, Taverny.
Merci, Victoria. Jean de Jacquelot, est-ce que vous voulez nous dire les raisons de votre présence ici?
Parce que je trouvais la maison sympathique, donc j'ai vu la lumière, je suis rentré.
La lumière, vous êtes rentré.
Voilà, donc on organise pour la quatrième fois donc une journée catholique et royale le 14 juillet. Tout à l'heure, vous parliez avec Vincent Berteret, vous parliez du 14 juillet 1689, et je voudrais donner une petite précision à ce sujet. Effectivement, c'est le 14 juillet 1689 que le Sacré-Cœur est apparu à Sainte-Marguerite-Marie, lui demandant de transmettre au roi de France de consacrer le royaume au Sacré-Cœur. Et alors, le premier hôtel dédié au Sacré-Cœur a été érigé donc à Versailles à la demande de la reine Maria Leszczynska, donc la femme de Louis XV, Et cet hôtel se trouve dans la chapelle royale, juste derrière le maître-hôtel. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le placard à balai de la chapelle. Voilà, je voulais simplement le préciser.
Qui reçoit d'ailleurs des expositions de haute couture d'un goût parfois douteux.
La chapelle, oui. Cette chapelle-là, peut-être
pas le placard à balai,
pas,
je présume.
Pas le placard à balai, non, parce que...
Y a le couturier s'appelait Lacroix, quand même.
Donc, alors, le 14 juillet 1789, ça ne nous intéresse pas beaucoup.
90 non plus.
Non. Y a un autre 14 juillet qui est beaucoup plus intéressant, puisque c'était la date anniversaire de la promulgation d'une bulle. Une bulle quo primum tempore d'un certain Saint-Pie V qui avait restauré la messe, mais il paraît que depuis peu de temps la messe de Saint-Pie V est devenue la messe du bienheureux Jean XXIII. Enfin, c'est dommage, mais enfin bon, c'est comme ça, quoi. C'est le 14 juillet en question qu'on célèbre, c'est le 14 juillet 1793. C'est l'anniversaire de la mort de Catelineau, le premier généralissime des armées catholiques et royales.
C'est un peu mon cousin.
Ah ouais.
Par alliance. Moi, j'hésite pas à m'infiltrer dans les familles comme ça. Mais vous aussi, vous êtes en Catelineau, non? C'est pas.
Non, j'ai pas cet honneur.
Non, c'est notre ami Bert, Rémi Bert, qui est cousine avec les Catelineau.
Oui, tout à fait, oui. La famille, vous êtes infiltrée, en tire une légitime fierté.
Ils disent partout qu'ils sont apparentés à Serge de Beketch par alliance.
Sûrement, hein.
Ou par hasard.
Merci
beaucoup.
C'est agréable.
En quoi ça consiste votre journée là.
Alors, cette journée est animée par la troupe des Chœurs de Chouans. Ce sont des gens qui font revivre un peu l'épopée vendéenne, qui se costument, qui ne se déguisent pas, je le précise, ils se costument. Et d'ailleurs, il y en a un qui est passé dans la boutique hier, il était costumé, c'était la manière de s'habiller quotidienne, c'est assez surprenant.
Dans le quartier, oui.
Surtout la faux retournée qui est sûrement pas mal.
Alors, ils seront là, avec leur costume. Il y en aura même un qui sera en armure. Ils avaient peur d'avoir trop chaud, mais je crois que il y aura pas trop de soucis. Et puis, tout ce monde-là chantera, accompagné par une cornemuse. Alors, nous aurons aussi trois autres invités. Valérie Barangeon, qui dédicacera dans Crivarol face à la Révolution française.
Qui vient tout à l'heure.
Elle parlera mieux que moi de son livre. Bernard Marchal, qui vient de publier une histoire de la France, une chronologie de l'histoire de France, qui nommait pas certains aspects importants de l'histoire de France, comme par exemple, assez proche de nous, Monseigneur Lefebvre. Et puis, attendez, excusez-moi, là, il y a une troisième personne, je cherche dans mes... Attendez, le nom m'échappe. Serge de Beketch, voilà.
Ah oui, j'ai entendu parler de lui, le personnage peu recommandable. Il s'est rendu coupable de nombreux méfaits, dont un livre d'ailleurs.
Plusieurs malheureusement. Enfin bon, il n'y en aura qu'un qui sera proposé à la vente.
Oui, je vais venir signer chez vous aux deux auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas encore acheté le livre. Donc c'est à partir de quelle heure?
Eh bien, 14h30 jusqu'à 18h30, 19h. La maison offrira des rafraîchissements. Une précision que j'ai oubliée, Bernard Marchal, pour son livre Histoire de la France, il sera demain matin l'invité d'Anne Brassier. Et donc vous pourrez l'écouter demain matin sur Radio Courtoisie.
Merci beaucoup Jean-Jacques Lowe. Demain, samedi.
Ah oui. Très rapidement, j'ai toute une liste de dédicaces pour l'été.
Oui, il reste 30 secondes. Donc
30 secondes, je dis simplement qu'il y aura un comte, un marquis, un prince. Si vous voulez savoir la suite, vous consultez le blog Radio Courtoisie, à moins que on puisse les présenter un peu plus tard.
Merci beaucoup. Ne quittez pas l'écoute. Oui. Oui, c'est bien, vous devriez vous relancer dans la chanson, c'est pas mal. Je donne la suite des signatures à France Livre, parce que Jean-Jacques Lowe est parti.
J'espère que j'y suis.
Non, mais il suffit de lui demander poliment. 21 juillet, Maxence Écart, Arnaud Raffard de Brienne pour la désinformation autour de la colonisation. Maxence Écart, c'est les fondements philosophiques de la démocratie moderne. Et Alain Sanders, avec Gestion de la barbarie, qui n'est pas un livre de lui, mais qui est un livre extrêmement intéressant sur les méthodes des islamistes, l'inspiration des islamistes, extrêmement intéressant, je vous en recommande la lecture. Le samedi 4 août, le docteur Niem, Les arts et l'équilibre mental, les arts, les arts, non pas les arts, bon c'est compris quoi. Le 11 août, Gérard Bedel, Le latin par la messe, Monseigneur Trochu. Monsieur Abbé Cellier, vous avez appris le latin ou
À l'école, oui. Au lycée Honoré de Balzac.
Oh pour les Parisiens apprécient, parce avec que c'est un foutoir gauchiste depuis 40 ans.
Voilà, avec ma camarade Joël Aubron, qui est décédé récemment.
Et vous étiez avec Joël Aubron?
Voilà, j'étais dans à peu près le même âge qu'elle et on était dans le même lycée.
Heureusement que vous étiez dans la bande pour relever le lot, parce qu'il y a des dedans. Et vous, monsieur Labéry?
Ah non, alors moi j'étais dans...
Tu n'es pas à Balzac, non?
J'étais pas du tout à Balzac, moi, Nantais, moi j'ai été chez les frères des écoles chrétiennes.
Bras.
Non, les frères des écoles chrétiennes. Et donc, il n'y avait pas de latin chez eux. Surtout pas après mai 68. Donc, je n'ai point fait trop de latin dans ma jeunesse, j'en ai fait comme ça en dilettante. Quand j'étais petit, ça m'intéressait quand même un peu.
Ah ouais?
Mais c'était du dilettantisme.
Et maintenant, vous...
C'était de la troisième langue, je me souviens.
À Écône, vous en avez fait, non?
À Écône, un petit peu, oui. Un petit peu de latin. À Écône, on en faisait quoi, un an? Deux ans?
Deux ans,
j'ai eu un maître, c'était l'abbé Alain Conta.
Ah oui, oui, ça c'est...
Je m'attendais, Serge, à ce que vous diffusiez la chanson de Georges Brassens, qui me paraissait de circonstance aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent.
Non, pas quand il y a des prêtres, on peut pas dire ça. Ça va quand ils sont pas là, on peut, mais quand ils sont là, un minimum quand même. Ça passe.
Sans
le latin, la messe nous ennuie.
Nous déplaît.
Nous plaît moins. Voilà, c'est ça, nous plaît moins. Marquis Chériguez de Olmeta, le 18 août, pour son L'Homme à table, très joli petit bouquin, bien fait.
Qui marche du feu, j'allais dire bleu. du feu de bleu. Oui.
Samedi 1er septembre, Philippe Prévost pour La France et l'origine de la tragédie palestinienne. Et le 8 septembre, alors ça c'est une espèce de couronnement, le prince Napoléon Comte Pozzo di Borgo, qui a écrit un livre qui s'appelle, vous savez comment ? Napoléon et Pozzo di Borgo. Ouais.
C'est qui le type à côté de Pozzo di Borgo, là? C'est qui le type?
Voilà, donc précipitez-vous à France Libre, mais vous pouvez commencer dès samedi, parce que c'est quand même le jour le plus intéressant, puisque c'est le jour que j'y serai. Vous avez un de saines lectures, mon cher...
Oui, le Libre Journal imprimé, numéro, celui que j'ai sous les yeux, c'est le numéro 412, je sais pertinemment, mais je me crois obligé de vérifier. On a montré, les auditeurs ont manifesté de l'intérêt pour le sort de Michel Lajoie il y a quelques minutes. Donc la réponse brève que Serge a donnée à ce sujet, il l'a extraite donc de ce numéro 412 où nous publions une pleine page avec un petit historique et tous les détails traduits du pénitentiaire en clair dans le langage commun, des conditions hallucinantes qui lui sont faites pour sortir de prison. 20 ans après avoir mis un pétard qui a, je crois, même pas abîmé une chaise, puisque l'assureur du cafetier a refusé de rembourser. Dans le même numéro du 412 du Libre Journal, un scoop, je sais pas si ça va me coûter une amende, si on préfère dire une exclusivité du Libre Journal, nous sommes les premiers, au moins dans la presse patriotique, à publier la photo du museau... de la tête d'affiche de la prochaine, excusez-moi de rire, c'est nerveux, la prochaine tête d'affiche de la fête de l'humanité. Et franchement, à mon humble avis, ça vaut 5 euros. Et je crois que, je dois dire que j'ai vu depuis l'affiche imprimée par l'humanité, et ils ont préféré s'abstenir de publier le museau de leur vedette. Si vous vous procurez ce numéro 412 du Libre Journal, vous comprendrez tout de suite. Ça n'est pas tout. Notre monument historique, le camarade François Brignaud, nous annonce que jusqu'à la voiture balai, précise-t-il, il s'engage à nous fournir le journal du quinquennat, une double page toujours pétillante d'esprit, de citations, d'une grande culture historique et littéraire. Nous avons la rubrique mondaine, la seule, à ma connaissance, j'aimerais bien être enfin contredit depuis le temps que je le dis, la seule et unique rubrique mondaine de la presse française, et là je parle plus de la presse patriotique, la pauvre, mais de la presse française dans son ensemble, y compris point de vue image du monde, dont les échos nous a expliqué sur une pleine page très clairement il y a quelques jours que ce point de vue avait sombré dans le people, ce qui n'est pas le cas du Marquis. Non seulement c'est pas son cas, mais par exemple aux récentes obsèques de Boyali, au lieu d'être parqué à 100 mètres comme la grosse presse avec c'était l'objectif d'un mètre de long, lui il est dans l'église et il en rapporte des détails tout à fait croustillants, tout à fait passionnants, avec sa gentillesse et son amabilité.
C'était l'excellent président à vie de Jalon, qui avait fait un pastiche de point de vue image du monde.
Coin de rue image du monde, c'est ça?
Coin de rue image du monde.
Alors, je ne peux pas détailler par page par page, Gaga Moumou, le libre journal qui paraît trois fois par mois ou du moins tous les 10 jours. Je peux vous en dire, pour ne pas abuser de votre temps, simplement que des archives considérables se trouvent sur le site ami francecourtoise.info, que si je vous ai vendu ce numéro 472, il vous en coûte 5 euros ou de préférence un carnet de timbre, que si vous vous décidez enfin, ne serait-ce que pour nous aider à passer l'été, à vous abonner pour un an, il vous en coûte 110 euros.
Quand Goffman dit nous aider à passer l'été, je vous rassure, c'est pas passer l'été aux Bahamas quand même. Hein,
non, non. À Banyuls, et en ce qui me concerne, peut-être un peu plus loin au nord. Oui, je tiens à dire qu'on prépare un numéro pour la semaine prochaine et qu'ensuite on disparaît pendant un mois, pendant le mois d'août, et que donc si on veut qu'on puisse continuer à siffler autant de kir et de perroquets que d'habitude, il faut s'abonner. J'ai dit une bêtise, Serge.
Oui, c'est absolument ignoble ce que vous venez de dire, parce que quand je pense que je suis condamné à la flotte et je vais en vacances à Banyuls, c'est désolant.
Alors, pour que Serge de Bekech ne soit pas réduit à boire l'eau du robinet, mais qu'il puisse continuer à la Sainte Pellegrino et à l'eau de Vichy, comme par hasard. Donc, abonnez-vous, 110 euros seulement pour un an, à l'ordre de SDB, 4 places France Liste, 75-010 Paris. Et puisque par hasard, le plus grand des hasards, je parle de SDB, qu'allez-vous faire le 15 juillet à Villepreux 78, Serge de Bekech, expliquez-vous.
Je vais faire ce qu'on appelle une conférence. C'est-à-dire, je vais parler du sujet qui est, peut-on, enfin, le nationalisme est-il un péché? Et je fais, oui, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs, vous,
monsieur? Il ricane pour le moment.
Elisabeth.
Moi, je ne traite ça qu'au confessionnal. Bon. Je ne réponds que dans le secret du confessionnal.
Je ne répondrai qu'en présence de l'avocat suprême. Et vous, monsieur Labéry, vous n'avez pas non plus d'opinion sur cette question, hors le confessionnal?
Hors le confessionnal, oui. C'est vrai que ces questions de théologie morale appliquée, de casuistique, sont complexes.
C'est un joli numéro de casuistique.
Voilà. Puisqu'on pousse dans le péché, je me permets de signaler que sera présenté à la conférence, à l'université d'été, un petit bouquin que je viens de faire, Un regard chrétien sur l'immigration, avec un petit tirage spécial pour cette université d'été, parce que normalement il sort en septembre. L'abbé Grégoire Cellier, un regard chrétien sur l'immigration.
Merci, monsieur. Je sens que je vais le lire parce que je vais vous prendre en flagrant délit quelque chose, forcément.
Avant de le lire, Serge, je vous donnerai le moyen aux auditeurs de s'inscrire, de venir à cette...
Renaissance catholique.
Il me semblait que c'était 7 juillet la limite des inscriptions. Qu'est-ce qu'on peut faire encore?
Je pense que si on y va, on peut entrer sans être inscrit. Je suis à peu près convaincu. Bon. C'est à Grand-Maison, à Villepreux. Ne serait-ce que pour voir le domaine de Grand-Maison, il faut venir parce que c'est vraiment un endroit super.
Mais pour vous répondre, je pense qu'aimer la France n'est pas un péché.
Eh ben, j'espère, parce que vous savez ce que disent il y a un vieux proverbe yiddish qui dit « heureux comme Dieu en France ». Donc, ça serait dommage de leur infliger un péché de plus.
Alors on peut envoyer à renaissancecatholique.com
pour .org pardon pour les titulaires de l'internet, et pour les autres l'adresse c'est, eh bien on va me la donner, je la livrerai tout à l'heure parce que j'ai un...
Ici les Moulineaux,
mais... c'est à Ici les Moulineaux, ouais. Et c'est rue, je sais plus.
Vous me permettez une insiste, Serge, j'ai un message personnel pour nos vénérés confrères de la Provence. On a lu ensemble et on a beaucoup ri l'article de la Provence là, sur notre signature du 8 juillet à Orange. Et en ce qui me concerne personnellement, je voudrais pas m'arrêter sur la faute d'orthographe qui a été faite à mon nom illustre. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que la journaliste racontait que j'ai changé de menu propos avec l'habit Eri, H-E-R-I. Alors, à sa place, j'aurais tourné ma phrase de la façon suivante. Les nationalistes, Goffman et Eri sont en conversation. Mais non, elle n'a pas pu trouver ça. Non. Par contre, elle a assuré aux milliers de lecteurs de la Provence que j'ai changé de menu propos avec l'abbé Eri. Or, il se trouve qu'on avait dû attendre la navette pendant 20 minutes à la gare. On était excédés l'un de l'autre. On avait échangé tous les propos menus, moyens et grossiers qu'on pouvait trouver. Et on ne s'est pas adressé la parole de toute la signature. Comme par hasard.
C'est ce qu'on appelle une figure de rhétorique. Ouais. C'est ça qu'elle voulait dire. Alors, vous dites la Provence, mais je vous signale que cette fille, j'ai cru voir que c'était une fille. Je suis pas absolument certain. Parce que, bon. Et ce personnage est également la correspondante de l'AFP. Donc, donc son texte a été diffusé par l'AFP, mais quand même prudent. Ils ont corrigé 2-3 fautes grossières.
C'est vrai ce que vous dites?
Bah oui, bien sûr.
Mais c'est hallucinant.
Qu'est-ce que vous croyez que je dis des bêtises?
Écoutez, j'ai jamais vu un article pareil dans un journal régional, un article aussi hargneux.
Je lisais pas beaucoup la presse régionale, mon cher.
Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130, Ici les Moulineaux.
Demandez et vous recevrez.
Alors merci, je voudrais, parce qu'il n'a pas voulu le faire.
Chère auditrice.
Il n'a pas voulu le faire, Goffman. Je voudrais quand même lire à messieurs les abbés le titre de mon édito. Pas tout l'édito, je vous rassure. Je ne coucherai jamais avec un arabe, c'est grave, monsieur le juge. Parce que vous savez qu'il y a une organisation antiraciste qui a porté plainte contre Madame Noachovitch, qui a dit qu'elle ne pouvait pas envisager de coucher avec un arabe parce que ça la révulsait. Madame Noachovitch était candidate UMP à Sarcelles contre...
93.
Sarcelles 9-3 contre...
DSK en fond.
Futur directeur du FMI.
Oui, alors donc... elle a dit ça et...
Et elle a été lynchée.
Racisme a porté plainte contre elle. C'est un scandale, c'est raciste de pouvoir coucher avec les Arabes. Et je dis, moi je me porte solidaire de Mme Noachovitch.
Ah.
Moi non plus, je ne coucherai jamais avec un Arabe.
Bravo, Serge, c'est très bien. Il y a un sketch d'Elie Semoun où la gamine, Kevina, dit « En tant que femme, je refuse les fellations. » Et Jean Copain dit « Moi aussi !»
Voilà, si tu veux voir. Bien, je ne vais pas le lire ce soir, j'avais préparé une lecture particulière de La cigale et la fourmi, mais on va s'abstenir.
Oh, Serge!
Non, pas ce soir. Monsieur, on n'a pas le temps. Monsieur Falavigna, vous organisez quelque chose à la rentrée.
Voilà, tout à fait. Je suis là avec une double casquette. D'une part, je fais partie du Centre de langue et de culture russe que dirige Madame Irène Comeau. Et au sein de cette association, culturel, est émergé un collectif de solidarité avec les enfants martyrs de Beslan que j'anime depuis 3 ans. Donc, avec cette expérience de 2 années derrière nous, nous allons organiser le 1er septembre sur le parvis du Trocadéro une cérémonie de solidarité, de souvenirs et de solidarité avec les enfants de Beslan.
Dont on rappelle en 2 mots pour ceux qui l'ont oublié.
Parce qu'effectivement, il y a des gens que je côtoie tous les jours et je me rends compte que tout le monde ne se rappelle pas effectivement ce qui s'est passé. Beslan, ça a été l'horreur absolue, c'est-à-dire pour la première fois un commando islamique.
Islamiste peut-être.
D'islamistes, revendiqué comme tel par un chef de guerre. Sergueï, qui a affirmé, depuis il a été tué d'ailleurs au combat, mais qui a revendiqué cette prise d'otage affreuse à notre époque de 1300 enfants russes dans la province d'Ossétie. Ils ont été pendant 3 jours terrorisés. Et je conteste beaucoup auprès de Florent Schall, qui était sur place, qui a vu des chars et des lance-flammes russes conquérir l'école, ce qui est totalement faux. J'ai les reportages de Paris Match qui montrent des enfants en train de s'enfuir lorsque les explosions provoquées par les terroristes ont secoué le gymnase où les 1300 enfants et leurs parents avaient été enfermés. C'était l'horreur absolue, parce qu'on n'a pas le droit, dans un conflit, de prendre des enfants en otage, de les torturer, ce qui s'est passé pendant 3 jours, ils ont été torturés. Certains ont été contraints de boire de l'urine, leur propre urine, qu'ils mettaient dans des chaussures pour éviter de mourir de soif, ce qui ne les a pas empêchés de mourir de soif. Et lorsque les familles vont dans le cimetière porter leur hommage à leurs enfants, sur les 350 tombes, ce n'est pas des fleurs, mais généralement de l'eau et des boissons gazeuses que l'on vient offrir, puisque ces enfants sont morts de soif. Alors, la Croix-Rouge internationale nous a confié une mission, c'est d'assurer des parrainages avec les 40 cas les plus dramatiques des enfants qui ont été blessés lors des attentats, des enfants qui ont été traumatisés par les 3 jours de torture qu'ils ont subis devant leurs camarades, une balle dans la tête s'ils pleuraient. C'est affreux ce qui s'est passé. Et puis, lorsqu'ils sont sortis de tout ça, ils ont eu des traumatismes psychologiques graves, puisque leurs parents étaient peut-être morts en cherchant à les sauver à ce moment tragique du troisième jour de la prise d'otage. Donc, pour la troisième fois, nous allons...
Je voudrais apporter un petit correctif. Il ne faut pas en conclure, bien entendu, que la totalité de l'islam est représentée par ce genre d'excès. On en a la preuve, par exemple... Aujourd'hui, on en est la preuve ces jours-ci.
Au Pakistan, à Islamabad.
À la mosquée rouge où les terroristes ont pris en otage des familles, des femmes et des enfants. Mais c'était pas de caractère anti-islamique puisque c'est des musulmans qui sont pris en otage entre eux.
Voilà, ça peut se concevoir. C'est peut-être dans leur nature. Tandis que là, c'est Chamil Basayev qui était le chef de guerre terroriste tchétchène qui a monté l'opération, qui l'a revendiqué.
Mais ça n'a rien à voir avec les musulmans qui sont les représentations d'une religion de paix, d'amour et de tolérance.
Ah. À preuve, le grand deuil qu'ils ont mené après le 11 septembre aux États-Unis.
Il faut que les choses soient bien, bien claires.
Alors, Serge, je vous remercie de m'accueillir avec ma double casquette donc du CELSER et du collectif de solidarité avec les enfants de Beslan, parce que la presse française ne supporte pas la Russie. Pourquoi on ne dit jamais en Europe que Poutine, par exemple, après son travail au KGB, était pendant longtemps l'adjoint d'un des fondateurs de la démocratie en Russie, premier maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak.
Oui, ce qu'on ne nous dit pas non plus, d'ailleurs, pardon d'insister, mais c'est que si effectivement on fait souvent reproche, y compris dans le présent, à Poutine d'avoir été un officier du KGB, jamais personne n'a reproché à Bushpère d'avoir été le directeur de la CIA. Or, jusqu'à présent, pas formé, la différence entre le KGB et la CIA n'est pas gigantesque. Ce sont deux services d'espionnage et de contre-espionnage et d'intelligence. Peut-être avec un peu plus d'intelligence du côté du KGB.
Peut-être que si M. Poutine avait pu se débrouiller pour être plutôt un officier de la CIA, ça ferait meilleure impression.
Le mieux, ça serait encore que je sois un officier du Mossad, mais malheureusement, il n'a pas été recruté.
Alors, c'est une obsession qui fait que, par exemple, là, nous allons annoncer cette cérémonie du 1er septembre sur le Trocadéro. Le Figaro, l'année dernière, pour annoncer cet anniversaire, a titré « Les mensonges d'État sur Beslan secouent la Russie ». C'était un jugement de valeur propre au journal Le Figaro. C'est quand même grave. Et le directeur du Figaro m'a répondu quand j'ai voulu protester en demandant un droit de réponse, en disant « c'est un sujet que je connais bien ». Le Figaro m'a dit, on regrette, j'ai la copie de Monsieur Francis Morel, directeur général, nous ne publierons pas de droit de réponse, c'est notre jugement, il y a des mensonges d'État sur Beslan. Donc c'est une drôle de manière de commémorer l'assassinat de centaines d'enfants, de torturer des milliers de gens, c'est absolument inconcevable. Et là, nous avons en France un problème avec les médias qui ne conçoivent pas la Russie autrement qu'un État totalitaire, alors que même c'est par les libertés qu'on accordait, l'autonomie qu'on accordait à certaines provinces comme l'Ossétie du Nord, que le pouvoir central n'a pas été très ferme. Et les familles qui sont venues se plaindre auprès de faire des revendications auprès de Poutine l'année suivante, Poutine leur a donné raison, leur a donné tellement raison que le journal Libération a titré Poutine achète les maires de Beslan. Donc on se rend compte qu'il y a...
Il a toujours tort.
Qu'il a toujours tort.
300 petits Russes se font massacrer par des islamistes, c'est la faute à Poutine, et c'est un sujet de russophobie dans nos médias pourris, excusez-moi, le mot m'a échappé.
Tout à fait, c'est pas la faute à Goffman, vous avez tort de vous en plaindre.
Tout à fait, non, c'est ce qui est grave, et je pense à ce moment-là pouvoir vous rappeler une phrase de Marie Calter sur Europe 1 le 9 septembre 2004, la presse française était plus gentille avec Staline qu'elle ne l'est avec Poutine.
Elle était servile avec Staline, elle était vautrée devant Staline.
Donc voilà, donc pourquoi je vous remercie d'exprimer notre projet, puisque la presse française, si on en parle, ne voudra pas le faire. Or, nous allons cette année commémorer cet événement sur le parvis du Trocadéro. Nous avons demandé l'autorisation, puisque c'est une manifestation publique dans la rue. Nous avons demandé une nouvelle fois l'autorisation à la préfecture de police, qui va nous l'accorder, je pense, comme l'année dernière. Mais nous lui donnerons une importance magistrale avec le concours cette année de 4 chorales. Il y aura 2 chorales russes et 2 chorales françaises. La chorale Montjoie-Saint-Denis m'a confirmé son accord, ils seront présents. Et puis il y aura une chorale qui s'appelle chorale co-russe, qui est spécialisée dans les chants religieux orthodoxes russes, composée de 8 femmes et de 6 hommes en tenue noire avec une étole rouge, qui chanteront des chants religieux. Ce sera le début de notre cérémonie. Ensuite, nous aurons des 350 flambeaux qui seront allumés au cœur du parvis du Trocadéro, avec des canons rouges de lumière projetés sur les côtés du parvis pour célébrer cet événement du 3e anniversaire du massacre des enfants martyrs de Beslan. L'ambassade de Russie, je pense, sera, comme les années précédentes, présente avec son ambassadeur et tous ses conseillers.
C'est l'occasion de poser une question désagréable qui va vous permettre de respirer un peu. Le 11 mai dernier, je crois que c'est la date de la dernière fête de courtoisie, Madame Comeau elle-même est venue faire état à notre stand de ce que l'ambassade renaclait à donner des visas aux enfants qui devaient, aux enfants de Beslan qui devaient visiter la France. Est-ce que vous pouvez actualiser cette question désagréable ?
C'est pas du tout désagréable. C'est un choix que je comprends tout à fait de l'ambassadeur Alexandre Idaïev. On en a parlé ensemble pendant 5 heures au mois de décembre. Il m'avait dit il m'a invité un jour à déjeuner. Ça a duré 5 heures. Et il m'a accompagné en me félicitant et en me disant, de toute façon, on vous aidera. En fait, il y a eu un problème grave entre l'ambassadeur et les deux unions nationales France-Russie. Il y en a une qui est composée d'anciens bolcheviques, c'était l'ancienne France-Russe qui est restée, et il y en a une autre qui est présidée par Robert Prosperini, dont j'étais jusqu'à il y a 15 jours le directeur de la communication. Nous nous sommes quittés parce qu'en fait ce personnage, par son rôle personnel, a compromis les visas. L'ambassadeur ne voulait pas qu'il y ait deux unions nationales qui soient en concurrence sur Beslan. Et moi, il m'a dit, il n'y avait pas de raison, j'ai la lettre d'ailleurs à votre disposition, qu'il a envoyé au Secours populaire français qui voulait monter une opération, où il a été clair et net en disant, c'est formidable ce que vous faites, nous sommes très heureux de savoir qu'Henri-Paul Fadavinien fait chaque année sur le Trocadéro une cérémonie, mais nous refusons en fait à donner nos visas pour l'Union de Prosperity.
Et quand j'ai demandé à Roberto Prosperini de s'effacer, en disant, ben, nous n'y allons pas, ni vous ni moi, puisque c'est l'autre union qui doit y aller, puisque l'argent, les 450 000 euros, étaient trouvés auprès du Secours Populaire, eh ben, ils ont, vous rigolez, il n'est pas question que ce soit l'autre union. Donc il y a un problème entre les deux unions, et voilà pourquoi les visas n'ont pas été donnés.
Bon, on peut espérer que ça s'arrange, sans trop s'égarer trop longuement dans les...
Je ne fais plus partie de ces unions, parce qu'en fait, c'est de la désunion. Et l'ambassadeur ne veut plus rentrer dans ces combines entre
inter-union nationale,
ancienne et nouvelle, France-Russie, qui sont des coquilles vides. Le dernier conseil d'administration de l'Union nationale France-Russie, ils étaient deux, nous étions 14 du collectif, ça s'est très mal passé et on s'est séparés.
Il va falloir qu'on s'en mêle, hein, Serge. Oui.
On n'a pas un sujet de...
Donc, notre...
Vous m'avez dit que la dernière fois que vous êtes passé sur Radio Courtoisie, vous aviez eu des résultats étonnants de la part, enfin des réactions extrêmement positives de la part des auditeurs, puisque vous
tout
êtes
à fait. Tout
des
à
familles
fait.
Pour héberger.
Ne plaît pas toujours, parce que c'est vrai que les résultats les plus positifs du collectif de solidarité avec les enfants de Beslan trouve sa source dans Radio Courtoisie. Nous avons à l'heure actuelle un dossier avec 40, les cas les plus graves que la Croix-Rouge nationale nous a confiés. Les familles de parrainage, c'est-à-dire qui s'engagent pendant une pérennité importante à transmettre de l'attention et de la tendresse à des enfants dans la situation dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est à la suite d'un appel sur Radio Courtoisie qu'on a trouvé toutes ces familles. Donc, je les salue ce soir. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait de nouvelles familles qui soient candidates pour compléter les quelques dizaines que nous avons à l'heure actuelle. Il y a une base de 40 enfants qui présentent toutes les difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure, pour lesquels il faut envoyer, c'est pas de l'argent, c'est de l'attention, de la tendresse, c'est leur dire, n'allez pas vous suicider, puisque certains le font à 12 ou 14 ans, pensez surtout qu'à l'avenir, vous aurez une possibilité d'espoir lorsque vous saurez qu'en Occident, dans une Europe qui va de l'Atlantique à l'Oural, vous avez des familles françaises qui pensent à vous. Voilà, donc, nos appels...
C'est un premier appel, ça.
Si le premier appel, c'est qu'il y ait de nouvelles familles qui se portent candidates pour des parrainages. L'adresse auquel il faudra s'adresser, je vous la donnerai après. Le deuxième appel, c'est que le maximum de gens soient présents le 1er septembre à 22h sur le parvis du Trocadéro. Ce sera une nocturne avec ses quatre chorales, deux françaises et deux russes. C'est un spectacle gratuit qui sera grandiose, je pense, parce que nous aurons des dizaines de choristes et de musiciens. Il y a même des gens qui sont connus dans le monde entier, un orchestre de Saint-Pétersbourg, de jeunes enfants de 12 et 14 ans et qui ont un talent fou.
La chorale Constellation, c'est...
Alors, le groupe Constellation...
Est-ce que son ramage ressemble à son plumage? Je fais allusion à une photo qu'on a sous les yeux, qui est très, très belle, très émouvante.
Des jolis petits militaires. Moi, si les Russes nous envahissent, je suis assez client. Hein.
Ouais.
S'ils sont tous comme ça...
Voilà, tout à fait.
Elles sont assez mignonnes. Hein.
Avec des escarpins. Elle est mignonne.
Bon, ben, écoutez,
donc, il y aura la chorale Montjoie Saint-Denis, la chorale Constellation...
Vivement les Cosaques.
La chorale Constellation a un autre groupe qui est uniquement de 15 accordéonistes, si bien que nous pensons avoir un spectacle de haute qualité à offrir aux Parisiens qui devraient être nombreux. Et cet appel ce soir, c'est qu'en fait la presse, quand nous allons donner des communiqués de presse, refusera à parler d'une série...
Dans le Libre Journal publiera...
D'amitié avec la Russie.
Si vous pensez à lui envoyer.
Salut, ça leur convient pas. Donc je vous donne l'adresse du CLCR, du Centre de Langue et de Culture Russe, boîte postale 73 75 261, CEDEX 06.
Répétez plus lentement s'il vous plaît.
Donc boîte postale les dons 73. Pour les enfants par chèque ou bien les candidatures de parrainage des enfants sont envoyées au Centre de Langue et de Culture Russe, le CLCR, boîte postale 73 75 261, CEDEX 06. D'autre part, le CLCR édite une gazette qui est une remarquable étude de la presse, analyse de presse russe, qui est envoyée gratuitement à toutes les personnes qui en demanderont par courriel à aclcr@waladou.fr. aclcr@waladou.fr.
Et si à cette adresse internet on demande la Gazette, elle vous est envoyée par électronique, pas par papier, puisque Madame Comeau n'a plus les moyens de faire une édition presse qui est lue dans le monde entier.
Quant au site internet, c'est clcr.ru, comme vous pouvez le lire dans le Libre Journal, auquel vous ne manquerez pas d'envoyer les communiqués que les autres journaux mettent à la poubelle.
Tout à fait. Alors moi j'ai la plus fraîche, c'est ACLCR.
Donc, alors le 1er septembre au Trocadéro, à quelle heure? J'ai pas compris.
22h au Trocadéro, nous y serons à partir de 19h pour installer la sonorisation, les projecteurs, les estrades. Nous allons essayer de faire une manifestation grandiose qui soit la dimension de la sympathie que nous portons à la Russie, et notamment à Beslan, le jour qui est une journée ce jour, le 1er septembre, est une journée de deuil national, et nous serons les seuls en France à avoir cette journée d'amitié avec eux, et toute l'ambassade sera présente, comme les années précédentes, avec nous. Donc l'appel, c'est d'avoir des moyens fixes qu'on nous aide financièrement aussi à la même adresse du CLCR, par des chèques qui nous permettent de
rentrer... À l'ordre du CLCR,
qui coiffe toutes nos activités, pour nous permettre de faire face à un devis qui est considérable sur le Trocadéro, qui est pas loin de 10 000 euros. Mais c'est une entreprise que nous voulons à la dimension de notre collaboration entre nos équipes du Centre de langue des cultures russes, du collectif d'amitié France-Russie et de la Russie.
Merci beaucoup, monsieur Falavigna. Donc, rendez-vous le 1er septembre au Trocadéro.
L'adresse boîte postale 73, la CEDEC 06, quel est l'intitulé? Centre de...
CLCR. Centre...
Je vais vous donner des documentations.
De langue et de culture russe, voilà. Merci beaucoup. On avait prévu un petit peu de musique, mais malheureusement, je crois qu'on n'a plus beaucoup
je vais
de
la
temps.
Faire. Hein, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Oui, tous ces sacrés calotins, sans le latin.
Non, c'est pas ça que je voulais passer. C'était de la musique russe. Messieurs les abbés, rebonsoir. Donc, alors, tiens, Goffman, apprenez plutôt votre géographie parisienne, parce que Sarcelles, c'est pas dans le 9-3, c'est dans le 9-5. Oui, je vous ai invité ce soir, monsieur l'abbé Herry, monsieur l'abbé Cellier, pour que vous nous livriez votre vos commentaires sur le motu proprio. Alors, monsieur l'abbé Cellier, vous êtes le porte-parole du... Alors, vous avez un titre particulier, vous êtes...
Alors, je suis d'abord l'auteur de Benoît XVI et les traditionalistes.
Ah oui.
Donc, un livre qui est tout au cœur de l'actualité, que je conseille aux auditeurs d'acheter en masse. Les éditions...
Que j'ai toujours pas reçu, monsieur l'abbé.
Ah bon, alors là, il y a un problème. Il faudra... Je vous en donnerai un tout à l'heure. Et puis d'autre part, je représente, sans avoir de titre particulier, je suis membre de la Fraternité Saint-Pilis, et à ce titre-là, je peux la représenter et défendre sa position.
Là, voilà. Vous parlez au nom de la Fraternité ?
Je suis membre de la Fraternité, et je parle selon les principes de la Fraternité Saint-Pilis.
Allez, monsieur Labéry, vous êtes...
Alors lui, il est quand même assistant du supérieur général, alors c'est beaucoup plus.
De l'Institut du Bon Pasteur.
L'Institut du Bon Pasteur,
oui. Voilà.
Et vous êtes aussi auteur. Vous avez fait un livre qui, me semble-t-il, n'a pas médiocrement contribué à apaiser les esprits et en tout cas à exposer le...
Ah, merci de le rappeler. Ce livre, c'est Non-lieu sur un schisme.
Oui. Très bon livre. Très bon livre.
Ouais.
Que j'ai reçu.
Vous voyez, alors...
Aux éditions Mascaret, oui.
Au fond, je vais avoir du mal à vous trouver des points de désaccord, j'imagine, sur le motu proprio. D'abord, la première question, question idiote mais obligatoire, est-ce que vous êtes heureux de la publication de ce motu proprio?
Pour ma part,
globalement.
Oui. Pour ma part, oui.
Oui, évidemment, nous sommes très heureux de ce motu proprio qui libère, peut-être pas totalement, mais de façon massive et forte, la messe traditionnelle qui, depuis 38 ans, était persécutée, était reléguée, était méprisée, et c'est un acte très personnel du pape, où il s'engage personnellement de façon très claire, et il offre une libération à la fois technique, juridique, mais aussi dans les principes sur un certain nombre de points, qui était effectivement, et Mgr Follet, le supérieur général de la Fraternité Saint-Pédis, demandant que dans tous les lieux de culte de la Fraternité Saint-Pédis soit chanté le Tédéum pour cette libération, n'a pas manqué de souligner l'importance et le côté vraiment excellent de ce motu proprio, même si nous ne sommes pas d'accord avec tout, mais en tout cas, la libération de la messe est une chose très importante.
Alors, Michel Béry, vous avez démontré dans votre livre, dans le lieu sur un schisme, que ce qui était dit dans les médias sur le prétendu schisme ne reposait absolument sur rien.
Voilà.
C'était un mélange d'incompréhension, de manque d'analyse et de malveillance, très certainement. Est-ce que vous pensez que ce motu proprio va mettre fin à ce genre de manifestation, à ce genre d'hostilité, ou est-ce que ça va au contraire réveiller les oppositions?
Alors on va voir, je pense, les deux réactions en parallèle. Et on a vu récemment encore dans les réactions de l'épiscopat en France au sujet de ce motu proprio, on n'a pas manqué de souligner, de rappeler en effet que la fraternité Saint-Pédis était dans le schisme, enfin même si on la nommait pas, qu'il y avait toujours cette histoire de schisme qui était latente. Moi je crois qu'en effet ce point de l'interdiction de la messe dite de Saint-Pie V, qu'on peut appeler plus juridiquement la messe du bienheureux Jean XXIII, puisque historiquement c'est la même
le missel
est celui du bienheureux Jean XXIII. Donc on pourrait plus historiquement parler de la messe de Saint Grégoire le Grand. Alors cette messe là, ce missel, le Saint-Père aujourd'hui rappelle qu'il n'a jamais été abrogé, c'est dans l'article 1 du motu proprio. Il est donc permis de célébrer le sacrifice de la messe suivant l'édition type du missel romain promulgué par le bienheureux Jean XXIII en 62 et jamais abrogé.
Alors ça c'est énorme. Parce que la doctrine la plus officielle, y compris de Paul VI dans des discours au consistoire,
le 24 mai 1976,
au consistoire dans lequel il dit cette messe est abrogée, l'ancienne messe est abrogée, l'unique messe c'est la messe nouvelle, je demande à tous de la célébrer, ce n'est pas libre, on ne peut pas le choisir. Et là, le pape Benoît XVI nous dit, mais non, ça n'a jamais été abrogé, tout le monde a toujours pu la célébrer en toute tranquillité. Ça veut dire quoi
sur le plan historique et disciplinaire, aussi l'histoire l'histoire de la discipline dans l'Église? Ça veut dire que l'actuel pape était à l'époque où Paul VI avait fulminé, en quelque sorte, cette interdiction contre la messe de la tradition. Il était évidemment déjà prêtre, mais il était probablement déjà évêque.
Non, il a dû être évêque en 77, je crois, une année après, je pense.
Mais il avait souligné, le cardinal Ratzinger avait souligné très tôt le choc que ça avait été pour lui dans sa vie, cette interdiction dans les faits. De la messe traditionnelle, c'est dans Ma vie souvenir, je crois.
Oui, effectivement, cette idée que la messe traditionnelle n'a pas été interdite, il l'avait déjà développée dans ses ouvrages en disant non seulement elle ne l'avait pas été, mais elle ne peut pas l'être, car un rite catholique ne peut pas être interdit, ça n'a aucun sens.
C'est tout le paradoxe, en fait, de ce document, on pourrait le souligner, c'est que le Saint-Père dit bien, il est permis de célébrer, il ne dit pas j'autorise.
Il reconnaît que ce
rite est permis. C'est très très fort parce qu'en effet, historiquement, c'était une notification en 71 de la Congrégation pour le culte divin, qui était parue d'ailleurs sans signature au départ, qui était un document sans portée juridique précise, qui avait interdit cette messe, qui ne l'autorisait en fait qu'aux prêtres âgés, malades, infirmes, à condition qu'ils aient aucune assistance. Ou qu'il n'y ait pas de participants. Alors c'est rappelé d'ailleurs dans la croix, là c'est amusant, de lundi, cette notification est citée. Et le 24 mai 76, donc 5 ans après, Paul VI réutilise cette notification, il en modifie la portée en disant que c'est une instruction apostolique, et donc il change la portée, et devant le consistoire, c'est-à-dire tous les cardinaux, il rappelle que le nouvel ordo a été promulgué pour être substitué à l'ancien. Mais aujourd'hui, vous voyez, Benoît XVI dit que ce texte n'avait pas de portée juridique, ce qui a toujours été la défense de Jean Madiran, etc., de l'abbé Dulac, du père Calmel, de Monseigneur Lefebvre, et c'est ce sur quoi, au fond, a démarré l'accusation de schisme. Puisque si on se souvient du 24 mai 76, le pape Paul VI affirme cela pour pouvoir condamner un mois après les ordinations à Écône par Monseigneur Lefebvre dans le rite traditionnel. Donc vous voyez que le fondement des condamnations de Monseigneur Lefebvre aujourd'hui est ruiné par le pape.
Et il est reconnu comme n'ayant jamais eu aucune valeur. Donc quand les résistants ont dit dès le départ cette messe n'est pas, ne peut pas, ne sera jamais interdite, on leur a dit vous êtes des méchants, vous êtes des schismatiques, vous désobéissez, etc. Eh bien, 38 ans après, on reconnaît, vous avez eu raison. Ouais. Dès le départ, c'est pas aujourd'hui. Le pape dit pas désormais, je réautorise, etc. Non, dès le départ, vous avez eu raison. Et nous disons, dans quelques années, on va dire, eh bien, le faux écuménisme ou la fausse liberté religieuse n'a jamais été catholique, et on reconnaîtra que Mgr Lefebvre aura eu raison dès le départ.
Alors, on remarque d'ailleurs que quand le pape a reçu les évêques schismatiques, comme disent les médias, il les a reçus exactement comme il aurait reçu des évêques pas schismatiques. Alors que quand il avait reçu certains représentants de l'Église, statut un peu douteux, il les avait pas reçus comme on reçoit comme le pape reçoit les cardinaux ou des évêques. Donc là, il y a une espèce, on pourrait dire que à la faveur des entretiens qu'il a eus avec les évêques de la fraternité, il a en quelque sorte entériné leur...
En tout cas, certainement, il ne le dit pas, mais certainement, il a une position qui n'est pas l'espèce de position, ils sont condamnés, ils sont méchants, ils ont tort de A jusqu'à Z. Et d'ailleurs, dans la lettre qui accompagne, il dit bien, il reconnaît à mot couvert en citant saint Paul qu'il y a eu quand même de la part des autorités ecclésiastiques des erreurs graves
Il va loin, oui, qu'il parle de culpabilité qu'il faut reconnaître chez les responsables de l'Église. Les responsables de l'Église n'ont pas fait suffisamment pour conserver ou conquérir la réconciliation et l'unité. On a l'impression que les omissions dans l'Église ont eu leur part de culpabilité dans le fait que ces divisions ont réussi à se consolider. C'est une espèce de repentance à laquelle le Saint-Père invite.
Pour un laïc, mais enfin, qui a donc, comme moi, l'esprit mal tourné, on ne peut pas ne pas voir là-dedans, ne pas voir dans toute cette affaire, plus exactement dans ce qu'écrit le pape dans sa lettre et dans le motu proprio, on ne peut pas ne pas voir l'aveu des moteurs secrets qui ont actionné cette interdiction ou pseudo-interdiction ou interdiction mensongère de la messe traditionnelle. Oui, on dit qu'il y a une forte dimension politique et même peut-être préternaturelle derrière ça. Vous n'avez pas cette impression?
Je pense qu'effectivement cette crise n'est pas purement et simplement une crise des gens qui ont pris des décisions. Il y a quand même, c'est un grand combat entre le ciel et l'enfer. Il y a quand même cette dimension-là. Et il y a eu des gens parmi les réformateurs qui étaient animés de mauvaises intentions ou qui étaient, je dirais, sous l'emprise peut-être, sans le savoir suffisamment, du démon pour faire, parce qu'ils ont mis l'Église dans le chaos complet.
Lui-même avait quand même parlé des fumées de Satan qui sont entrées dans l'Église.
Oui, alors c'est curieux parce que c'est lui qui...
Il était peut-être le mieux placé pour en parler. Oui. En tout cas, ce texte, c'est à la fois un texte par rapport au passé que nous venons d'évoquer, mais c'est aussi un texte par rapport au présent et au futur immédiat. Et c'est intéressant de regarder ce que ce texte pourra permettre aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il est, il autorise quelque chose qui n'a jamais été interdit. Bon, c'est le paradoxe.
Il le règle, on va dire.
Mais il le règle. Et je trouve que c'est important de considérer que dans ce document, on pourra parler éventuellement aussi de la lettre d'accompagnement qui est intéressante. Il y a une partie qui est un document très court, une partie théologique au départ et une partie très juridique en forme d'article et de sorte que c'est un acte de gouvernement très très sûr et très serré. Mais dans la partie théologique, l'impact, peut-être qu'il n'apparaît pas tout de suite en première lecture, est considérable. Parce que le Saint-Père commence par rappeler depuis les temps immémoriaux et aussi à l'avenir le principe à observer. Donc il se place d'emblée au niveau du principe. Et il poursuit, c'est que quant aux usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, l'Église, chaque Église particulière doit être en accord avec Rome. Et ces usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre, donc c'est bien dans le futur, l'intégrité de la foi. Donc il dit que cette loi de la prière, l'ex orandi, correspond à la foi, et que pour transmettre la foi, la liturgie doit être en continuité ininterrompue avec la tradition apostolique. Donc là, on a le principe de la tradition qui est réaffirmé contre l'évolutionnisme.
Alors justement, mais là, ça pose,
qui était le principe ça, antérieur depuis 40 ans.
Ça amène la question que j'allais vous poser, parce que depuis le début, je crois qu'il est assez clair que Mgr Lefebvre a dit qu'il n'acceptait pas la nouvelle messe. Il lui trouvait des défauts fondamentaux, rédhibitoires, qu'il a soulignés, qu'il a montré du doigt. Bon. Alors, un auditeur nous dit, ce qui ne vous paraît pas gênant, que Benoît XVI dise que les deux messes sont les deux formes d'un même rite, alors que justement la messe de Paul VI a été confectionnée par Mgr Benigni, franc-maçon, et par des pasteurs pour détruire le Saint-Sacrifice de la Croix. La nouvelle messe voulant abolir l'ancienne, enfin la messe voulue par le Christ. Et la question qui se pose, c'est est-ce que finalement on ne revient pas à une situation inverse, mais tout aussi dramatique, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas assister à un schiste moderniste, où les modernistes, on le sent déjà dans les réactions de certains évêques, notamment l'évêque qui, un évêque dont le nom m'échappe, mais qui était le collaborateur de Benigni, Mgr Noyer, qui dit « j'ai écrit au pape que non, que ça va pas », etc. On sent qu'il y a une espèce de révolte des évêques.
Contre de certains médias aussi.
Oui, mais ça, les médias, alors ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Hein,
je pense à Témoignage Chrétien qui publie un éditorial en latin pour démontrer que le latin est sans intérêt et qui s'exprime et qu'il commente à n'en plus finir sur les radios nationales en termes extrêmement violents et agressifs.
C'est ça. Est-ce que c'est pas eux qui se retrouvent finalement alors dans une...
À la désobéissance va peut-être changer de camp.
Voilà, je ne sais pas. Et comme dit, comme a dit Mgr Follet, excusez-moi, Mgr Follet a dit, ce n'est pas seulement le motu proprio qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après. Il va y avoir une guerre parce que il faut expulser l'erreur de l'Église.
Oui, mais alors, moi je crois que ce motu proprio est quelque chose. Est, si vous parlez selon la métaphore militaire, est une arme précisément redoutable dans cette perspective d'un combat. Mais sans verser dans le manichéisme. Parce que sur le terrain, évidemment, c'est plus compliqué et moins apparent, sur le terrain des fidèles. En revanche, on voit dans les réactions de certains évêques, ce motu proprio n'est pas souhaité en France, a dit Mgr Le Gall, je crois, etc. Ça n'entre pas dans le catholiquement correct, a dit Mgr d'Agence. Il a créé ce mot, c'est assez extraordinaire. Mais, bon, ce motu proprio, tout de même, apporte, par rapport à la question des deux rites dont vous parlez, ou du rite unique, cette question de cet auditeur est très importante. La question est de savoir si, en effet, il y a deux rites que l'on doit cultiver en parallèle, de sorte qu'il y aurait le rite en usage, principalement aujourd'hui le rite de Paul VI, et que l'on créerait une sorte de rite marginal, au fond, un rite mis à part avec des, ce qui obligerait à définir des lieux pour ce rite, des lieux de rite propres. Et tout ceci, je pense que le Saint-Père en a vu le danger, à savoir que si l'on considère que le rite de Saint-Pie V n'est plus le rite romain, à ce moment-là, il devient un rite de musée, mis à part, et ce n'est plus possible de le réimplanter dans les diocèses. En revanche, vous voyez, cette idée d'avoir un seul rite et deux usages, parce qu'au début, c'est vrai qu'il prend le terme de forme, mais petit à petit, et principalement dans la lettre d'accompagnement, vient de façon récurrente ce terme « usage ». Et c'est un terme technique du droit canon qui garantit, si vous voulez, une liberté et un respect de l'usage. L'usage n'est pas optionnel. Quand vous définissez l'usage dans un lieu, ça n'est pas optionnel. Prenez l'exemple, si vous voulez, pour être plus concret, à Saint-Éloi, à Bordeaux, nous avons justement obtenu, en travaillant la rédaction de la convention avec le cardinal Ricard, nous avons obtenu la création d'une paroisse personnelle déterminée par l'usage des rites liturgiques de 62. Cette formule-là, elle est très anodine en apparence, mais très forte.
Juridiquement,
parce que si on avait dit, par exemple, qu'on définissait une paroisse personnelle de rite de Saint-Pie V, de rite propre, ce qui tendrait à satisfaire l'auditeur qui a posé la question, alors on n'avait plus aucune garantie, parce que un prêtre ou un évêque, par exemple de rite latin, qui vient célébrer dans une église paroissiale de rite propre, arménien ou syriaque ou quelques rites que vous voulez, il va célébrer la messe selon le rite de sa propre ordination et non le rite du lieu. En revanche, s'il s'agit d'un usage, il doit se conformer à l'usage.
Alors, il y a un aspect quand même qui se pose. Parce que je me demande si... Enfin, une question qui se pose, c'est celle de la validité des contestations qui ont été faites contre le retour de la messe en latin. Est-ce que ça a vraiment un sens de dire la messe en latin? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce qu'il est vraiment impossible d'imaginer que le rite de Saint Grégoire ou de Saint Pie V ou du Bienheureux Jean XXIII soit célébré en langue vernaculaire, en français?
Il existe.
C'est Paul VI, la messe de Paul VI.
Non, le rite 65,
je crois.
Voilà, 65 ou 67, il y a eu une version autorisée, canoniquement établie de la messe, donc traditionnelle, de la messe grégorienne en français.
Et ça, c'est intéressant. Ça
existe, mais pour l'instant, il n'est pas canoniquement, je dirais, traité dans le motu proprio.
Mais vous, alors, en tant que prêtre, et donc en tant que célébrant, est-ce que vous accepteriez de célébrer selon un rite comme ça en français?
Alors je ne vais pas répondre ça directement parce que c'est une imagination. Mais en revanche, ma réponse est, je préfère dire la messe traditionnelle en français que la messe nouvelle en latin.
Oui, ben bien sûr. Mais je m'attendais à une réponse de ce genre, et ça, il me paraît assez évident que c'est un argument définitif contre les opposants, parce que le seul argument, comme disait Patrick tout à l'heure, le seul argument qu'ils utilisent, c'est l'argument du latin. Hein. Quand Témoignage Chrétien s'amuse à faire un éditorial en latin, qui pour évidemment montrer que 98% de ses lecteurs sont incapables de comprendre le latin, et je dis 98%, c'est peut-être plus.
Et vice versa, mais ça, ils comprennent cette expression.
Voilà, c'est
ça. Icat nunc.
Icat nunc. Bon, mais là, on enlève le seul argument par cette
méthode. Très honnêtement, assister à la messe en latin, donc à la messe traditionnelle en latin, tout le monde a un missel bilingue, d'abord. Une bonne partie de la messe, c'est-à-dire les lectures de l'Épître et de l'Évangile et le sermon sont jusqu'à preuve du contraire en français.
Mais en réalité,
la difficulté qu'ont les gens qui débarquent dans une de nos liturgies n'est pas le latin.
C'est
de comprendre
le mystère qui se fait. Sure. Vous voyez, l'autre fois, à la signature de Radio Courtoisie, j'ai eu une brave dame qui est venue me voir. Il a dit, monsieur l'abbé, voilà, j'ai besoin de conseils. J'étais en train de signer mon livre, là, Benoît XVI est traditionnaliste. J'aurais besoin d'un conseil. Parce qu'elle me dit, voilà, j'ai assisté à la messe, je suis de l'église conciliaire, mais j'ai découvert récemment Saint-Nicolas. Et je ne comprends rien à ce qui se passe à Saint-Nicolas.
Ah oui.
Je ne comprends rien. Alors, je lui dis, mais il faudrait avoir, vous savez qu'il y a un missel, des missels latins francs. Elle me dit, mais j'ai trouvé un vieux missel, donc j'ai la traduction. Mais elle me dit, je ne comprends rien, mais elle me dit, je sens qu'il y a un mystère et une foi et une voyez ce que je veux dire. Et donc, dans la réalité, la difficulté, elle n'est pas dans le latin, c'est pas une vraie difficulté. Elle est dans découvrir le sacrifice, la rédemption, la propitiation. Voilà.
C'est ça. N'empêche que l'argument du latin, et ce qui permet aux adversaires de la
promesse... Oui, d'écarter Narfère demain.
Voilà. Je vais vous demander de m'accorder quelques minutes d'entraque.
Bien sûr.
Dire, pas d'entraque, mais parce que Maître Valrande Saint-Just nous appelle. Allô ?
Allô ?
Oui, Maître Valrande Saint-Just, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Vous avez entendu donc le verdict.
Oui.
Alors, du
procès Bodin.
Du procès Bodin. Le procès Bodin se termine par la condamnation à
perpétuité,
c'est ça ?
Oui, c'est ça.
De Bodin, et l'acquittement de ces 16 co-accusés.
Oui. Alors, Serge, d'abord, je m'excuse de téléphoner un peu tard, mais on a été un petit peu occupé. Ma réaction, c'est que, bon, Pierre Bodin ne devrait plus sortir de prison, normalement, mais c'est pas tellement la question. D'abord, il a 59 ans, il va finir sa vie en prison. Mais Pierre Bodin n'a jamais avoué. Ses co-accusés non plus, puisqu'ils sont acquittés, parce qu'ils ont avoué pendant 2 ans et se sont rétractés à la cour d'assises, et ça leur a valu un acquittement. Donc n'avouez jamais, mais il faut bien dire que ces dénégations sont absolument terribles pour la famille, mais plus pour la société entière. Et si Pierre Bodin n'avoue jamais, c'est qu'il n'y a plus la peine de mort. Ça, c'est une première chose. Allô ?
Oui, je vous entends, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt, oui.
Voilà. Si la peine de mort existait, le couteau était tout près de son cou, et je pense que pour essayer d'y échapper, il aurait avoué et il aurait regretté. Ça, c'est une première chose, un premier symbole de cette affaire. Les autres symboles, c'est que, et ça c'est relatif à l'acquittement des 16 co-accusés, c'est une faillite complète, c'est une catastrophe cette affaire, dans tous les plans. Jeanne-Marie Quesnay est assassinée parce qu'on libère par anticipation Pierre Bodin. Bon, déjà c'est une première chose. Ensuite, la gendarmerie, qu'on dit être incordée, est incapable de faire une enquête sérieuse à partir du moment où elle est mise sur la piste des ravisseurs de Jeanne-Marie. À l'occasion de ces débats, on a découvert des lacunes et des insuffisances dramatiques. Et malgré cela, dans le cadre de règlement de compte interne à la gendarmerie interne à la magistrature, des gendarmes que je dirais dévoyés sont venus à la barre, plusieurs, d'autres ont dit le contraire, mais ça a suffi, plusieurs, et un des deux juges d'instruction disant « Nous ne croyons pas la culpabilité de ces 16 co-accusés ». Et évidemment, dans l'esprit du jury, des jurés non professionnels, la parole de ces pseudo-professionnels a eu un effet assez dévastateur, et ce procès, qui a été bien mené par le président l'instruction par le juge d'instruction, qui a été jusqu'au bout, ça, et les avocats généraux ont fait leur travail, je ne le nie pas, mais ce procès n'était pas loyal, les plateaux de la balance n'étaient pas égaux, et ça au détriment de la victime. Soyez toujours pour les assassins et au détriment de la victime. C'est quand même incroyable dans une affaire aussi dramatique d'appliquer quand même cet adage et de venir pourrir ce procès et donc d'arriver à un acquittement au bénéfice du doute de gens qui ont avoué tout pendant 2 ans, eh bien voilà, sous la pression des aveux, des dénégations et des rétractations tardives, sous la pression de ces paroles de quelques gendarmes et d'un juge d'instruction, sous la peur panique d'être accusé de faire comme à outre ou dans l'affaire Patrick Dils, et voilà à quelle catastrophe et à quelle faillite de l'institution judiciaire on est arrivé.
Je crois que, au fond, enfin, l'impression que donne votre intervention, c'est que on est arrivé à un tel degré de décrépitude de l'institution judiciaire qu'on peut presque dire que la mise en évidence de cette décrépitude est peut-être le seul aspect positif de ce procès. Non,
pour les auditeurs qui l'ignoraient, il faut rappeler que maître Valrand Saint-Just était parti civil, donc il était aux premières loges de toute l'affaire, de tout le procès. Il parle d'or.
Je suis resté 3 mois à Strasbourg pour on a suivi ce procès. On a accompli un travail absolument considérable. Nous avons tout essayé pour endiguer en réalité ce qui est une peur absolument panique. Et voyez-vous, encore un élément incroyable. Donc, puisqu'ils ont acquitté tout le monde, ils ont maintenu en détention provisoire pendant 3 ans, quatre des co-inculpés, qui vont s'empresser de se retourner contre l'institution pour demander dommages et intérêts, etc., etc. Ils n'oseront plus jamais mettre qui que ce soit en détention préventive. On a œuvré en faveur du mal, dans cette affaire, voilà. Et on a provoqué et on s'est foutu totalement des victimes et des familles et de la famille de Jeanne-Marie Quégelin. C'est un sentiment amer et d'écœurement qu'on a au bout de la course. Tout ça pour ça. Enfin bon, voilà.
Oui. Maître Valentin Saint-Just, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que j'imagine ce que vous pouvez ressentir, à la fois la tristesse, l'accablement et puis la fatigue, l'épuisement moral et
non, physique. Faut pas exagérer non plus, certes.
Si, mais j'imagine très bien parce que...
On pourrait, mais heureusement on a toujours de la ressource.
Oui, mais avec...
La famille Quégelin est extrêmement courageuse, elle sait ce que c'est que la vie et que les épreuves ne manquent pas. Et que non seulement on provoque le décès de cette petite fille, et puis après, on est incapable de les protéger, tout au long de l'enquête, et de, voilà. Mais bon, voilà, on va surmonter, bien entendu. Mais c'est vrai, comme vous le dites, il faudrait que ça serve un peu d'exemple, que ça ouvre un peu les yeux de certaines personnes, voilà. Voilà où on en est en 2007.
Écoutez, moi je pense qu'il faut...
Et pas Mme Rachida Dati, avec les problèmes qu'elle a dans son ministère.
Je ne crois pas. Non, je ne pense pas qu'elle ait l'envergure nécessaire, cette excellente jeune femme, charmante au demeurant. Je suis désolé
d'être intervenu dans vos débats extrêmement spirituels, là, que vous entendez tout à l'heure.
Pas du tout. Je vous remercie d'avoir pris la peine de nous appeler, parce que c'était... Voilà. Et puis, on refera, si vous voulez, quelque chose, puis il faudra qu'on en reparle, alors là...
On peut faire quelque chose de plus complet. À propos de cette affaire, qui pose de problèmes redoutables.
Merci,
à bientôt.
À bientôt.
Au revoir, Serge.
Donc, c'était Maître Valrand Saint-Just, qui était l'avocat de la famille d'une des victimes de Baudin. Messieurs les abbés, pour conclure, si vous le permettez, enfin conclure, je ne vais pas conclure, parce qu'on ne va pas conclure comme ça, mais je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire sur ce motu proprio, mais je voudrais vous lire un petit mot d'un auditeur qui me paraît... au moins mettre un point comique, de suspension comique à notre entretien, que l'abbé Héry, rallié à la secte conciliaire, se réjouisse du motu proprio, qui semble donner raison à son ralliement, quoi de plus naturel. Que le gnostique Arsène Lupin, dit Grégoire Cellier, fasse mine d'être catholique, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire de mauvaise. Mais Ratzinger, le relativiste, l'hérétique moderniste, si les papes, hélas, n'est certainement pas le Saint-Père. Il le sera quand il sera converti au catholicisme et qu'il aura abjuré ses erreurs gravissimes. Quant au bienheureux Roncalli, c'était un franc-mac et un triste sire, un lamentable personnage. Alors, moi, je voudrais que cet auditeur...
Anonyme ?
Non, mais anonyme, il n'est pas français, mais connu. Se fasse connaître une bonne fois pour toutes, parce que depuis le temps qu'on s'enquiquine à faire des conclaves qui durent des mois pour avoir un pape et tout, il faut qu'il se présente. Il faut qu'il prenne par la force le pouvoir.
Cournonmi.
Cournonmi, exactement. Ce qui veut dire... Pourquoi pas moi. Voilà.
Je voulais dire une toute petite chose. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais je crois qu'on peut le saluer de nouveau au point de vue de sa défense de la liturgie. Daniel Raffard de Brienne, qui est mort le jour du motu proprio, qui a fait un très beau petit bouquin. C'est son premier petit bouquin qui s'appelait Lex Orandi, qui était l'histoire de la messe traditionnelle, la défense de la messe traditionnelle, qui a été énormément diffusée. Je crois que 30 ou 40 000 exemplaires par DPF. Et donc, le saluer pour ce... Il représente tous ceux qui ont au cours de toutes ces 38 ans, donc qui ont combattu et qui sont morts, qui ont permis à cette messe traditionnelle d'exister encore, qu'ils soient évêques avec Mgr Lefebvre, Mgr de Castromaillère, le cardinal Ottaviani, le cardinal Bacci et d'autres qui ont combattu, des prêtres qui sont souvent morts dans la tristesse, dans l'abandon, dans le rejet, dans la condamnation, et puis tous les fidèles qui ont porté par leurs efforts, par leurs dons financiers, par tout ce qu'ils ont fait, et qui font que cette messe aujourd'hui est encore célébrée et est encore vivante, et que petit à petit par tous les élans spirituels, et notamment Mgr Felet le rappelait, je crois qu'il faut le rappeler, les 2 millions de chapelets qui ont été récités à la fin de l'année dernière à cette intention très précise, mais tout bien d'autres choses, hein, mais c'est un des éléments, eh bien, a permis cette première victoire qui doit être suivi de beaucoup d'autres, bien sûr, pour l'Église.
Oui. Ce que je vous propose, oui, monsieur Labéani.
Oh non, c'était juste un petit mot, parce que, à propos de victoire, puisque vous citez votre supérieur général, je citerai le mien. Vous avez, évidemment, sur le blog de monsieur l'abbé Philippe Laguéry, sa réaction et à la publication du motu proprio qui remplace Ecclesia Dei. Et c'est vrai qu'il pose la question, est-ce une victoire ? Mais oui, si c'est une victoire, mais ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre par rapport à l'enjeu, bien, qui est celui de toute l'Église. Au fond, c'est l'Église qui est victorieuse dans cette nouvelle mise à jour, mise en liberté visible de sa tradition. Et je crois que c'est ça surtout qu'il faut souligner.
Oui, c'est ce qui est un peu désolant, le genre de message que je viens de dire, parce que, visiblement, avec des gens comme ça, on ne pourra jamais gagner, parce qu'il y aura toujours un truc qui n'ira pas.
Nous aurons quand même une pensée, avant de quitter le sujet, pour les paroissiens traditionnalistes de Niaf dans la Mayenne, oui, qui, à ma connaissance, à l'instant où nous parlons et où nous avons l'air de célébrer une victoire totale, sont toujours tenus à la porte de leur église par la force publique, avec l'approbation très haute de la Fédération anarchiste.
Alors, un merveilleux outil de résistance a été créé sur Internet pour tous les catholiques attachés à la liturgie qui veulent faire usage des droits que vient de leur reconnaître leur souverain pontife. Comme vous le savez, nos curés devront faire une place à la messe de Saint-Pie V si un groupe stable de catholiques en fait la demande. Mais dans bien des cas, comment connaître ceux qui, dans notre voisinage, pourraient se joindre à nous pour revendiquer le droit à la tradition liturgique ? Un site Internet... http barre de fraction motuproprio.fr, je lis comme c'est écrit, permet d'organiser diocèse par diocèse à tous ceux qui veulent faire sur le terrain le plus grand usage de cette liberté retrouvée. Retrouvons-nous sur ce site, organisons-nous et rendons leur splendeur d'antan à nos rituels.
Je rappelle quand même que le dictionnaire Le Robert 1, le premier exemple qu'il donne pour groupe, c'est le groupe des trois grâces, donc trois. À partir de trois, d'après le dictionnaire, c'est déjà un groupe. Le père, la mère, un enfant, ça fait un groupe.
Là où deux ou trois sont assemblés en même temps.
Voilà, cela fait un groupe.
Merci beaucoup, monsieur Elisabeth. Je vous propose de revenir à la rentrée.
Où peut-on le trouver ?
Ne me coupez pas la parole, parce
excusez-moi,
que j'adore
Serge,
ça. Comme,
excusez-moi, Serge, prie, Serge, petit, excusez-moi mais il faut bien que je finisse.
Allez-y.
Où peut-on se procurer le texte intégral de ce motu proprio hors Internet ?
Hors Internet, il n'est pas encore imprimé.
Je voudrais le titre de monsieur l'abbé Héry.
Le livre. Oui. Non-lieu sur un schisme.
Et celui de la...
Je l'ai noté déjà.
Non-lieu sur un schisme, et vous pouvez le commander à l'église Saint-Éloi, en adressant une demande à Bordeaux, 1 rue Saint-Éloi. Oui.
Bordeaux.
33 000 Bordeaux.
Voilà. Et mon bouquin, ça s'appelle Benoît XVI et traditionaliste, édition Entrelacs, en vente dans toutes les bonnes librairies et sur Internet.
Euros.
Mais il est aussi dans les bonnes librairies, comme la librairie du Petit Pont.
Voilà, la librairie, librairie du Petit Pont.
Sur un schisme, mais est disponible chez Duquesne aussi.
Alors, ce que je vous propose, monsieur Elisabeth, c'est de revenir dans 2 mois à peu près, pour faire un point de l'avancement de cette nouvelle, enfin des suites de cette nouvelle fort réjouissante.
D'autant que le motu proprio commence juridiquement le 14 septembre.
motuproprio.fr pour économiser 50 coups de fil au secrétariat bénévole. Vous écoutez Radio Courtoisie.
Et je me tourne maintenant vers Mademoiselle Le Baron, Madame Béranger.
Baranger.
Décidément, j'ai tout faux pour commencer. Alors, je suis désolé, on a, comme d'habitude, perdu beaucoup de temps, mais je, pardon, pas perdu.
Je crois pas,
temps,
moi.
Je veux dire, on a vous, on vous a fait perdre un peu de temps parce que vous avez attendu longtemps. Vous venez de consacrer un ouvrage considérable à un personnage non moins considérable, qui est Rivarol. Et je m'amuse parce qu'un ami me parlait d'un autre ami qui écrivait un livre sur Rivarol et qui me disait qu'il a les plus grandes difficultés à trouver. Il voulait faire une biographie de Rivarol. Il me dit qu'il a les plus grandes difficultés à trouver de la documentation sur la bio de Rivarol. Et je vois que vous, sur un sujet comme Rivarol face à la Révolution, vous faites un livre qui doit faire quoi, 500, 600 pages ?
Plus de 500 pages.
500 pages, oui, effectivement.
Bon, alors, où est-ce que vous avez trouvé cette documentation ? Parce que...
Non, alors, votre ami a raison. S'il ne se consacre qu'à sa biographie, effectivement, il va avoir les plus grandes difficultés à trouver des sources, puisque nous ne possédons malheureusement pas grand-chose. Rivarol était un merveilleux causeur, vous le savez, mais très peu disert sur lui-même. Il n'a pas dit grand-chose. Il y a des pans entiers de sa vie qui nous sont inconnus. Et ce que nous le savons par des écrits d'amis, de gens qui l'ont côtoyé, etc. Mais nous ne disposons pas véritablement de sources sûres qui nous permettraient, et de renseignements qui nous permettraient de faire une biographie extrêmement complète.
Alors l'image qu'on a de Rivarol, c'est celle d'un, vous le disiez, d'un merveilleux causeur, d'un virtuose de la langue. Réactionnaire, si tant est que le mot ait un sens à cette époque-là.
Oui, il l'assumerait parfaitement, je crois, parce que réactionnaire, ça veut dire qu'il a réagi.
Voilà, impertinent.
Impertinent, oui. Il y a un auteur qui a eu cette phrase merveilleuse, enfin, qui a dédicacé son ouvrage à son impertinence, le comte de Rivarol. Et
c'est joli ça.
Ça, extrêmement joli.
Mais en fait, ce qu'on saisit mal quand on, comme moi, quand on connaît pas très bien le personnage, c'est les motifs qui font qu'il a gardé dans la mémoire collective une place aussi importante. Parce que c'est vrai que c'est un des personnages de l'époque. Concerné, dont le nom est présent, dont la figure est présente, on sait tout de suite de qui il s'agit.
Non mais
en gros.
Vous avez raison, son nom et son œuvre demeurent encore aujourd'hui d'actualité. Et là, je renvoie nos auditeurs aux derniers articles qui sont parus dans la presse nationale en avril et mars dernier, dans Libération, dans Le Monde, Le Nouvel Obs, etc., où le nom de Rivarol est cité. Bien. Mais, paradoxalement, même si son nom et son œuvre sont connus, il reste tout de même fort mal connu. Lorsque vous ouvrez un manuel universitaire d'idées politiques, il n'est que cité, et à peine. Son nom est quasiment absent la plupart du temps.
Oui, il n'est pas poursuivi par une réputation de penseur politique.
Exactement, et il est totalement éclipsé par Burke, Bonald.
Oui, alors j'allais vous parler de Bonald. Ce qui est curieux, c'est que si on pose la question à des gens, disons, sans une culture particulièrement développée, on leur dit, est-ce que vous connaissez un tel, un tel, un tel ? Si on leur dit Rivarol, ils vont dire oui tout de suite. Si on leur dit Bonald, il y aura certainement beaucoup moins de réponses positives.
Là, ça peut s'expliquer par le style de Bonald. Ah. Bonald est quand même très difficile à lire.
Un peu rasoir, peut-être, non ?
Voilà, je n'osais pas le dire, mais je suis d'accord avec vous. C'est une épreuve, en tout cas.
Bonnes idées, mais exprimées d'une façon ennuyeuse, disait mon prof de français.
C'est cela, oui, effectivement.
Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, vers Rivarol ?
Ah ben je dois ce sujet à mon directeur de thèse, monsieur le professeur Jean-Pierre Brancourt. Il me l'a proposé, et j'ai finalement décidé de l'accepter, et ce, pour plusieurs raisons.
Vous avez des affinités particulières avec le personnage de Rivarol ou...
Monsieur Brancourt ?
Non, vous
Ah, moi, aucune.
Aucune.
Aucune, aucune. J'ai fait confiance à mon directeur de thèse, et puis en découvrant un peu le personnage, le fait qu'il soit finalement si mal connu a fini de me décider. Mais il y a d'autres raisons aussi. Son indépendance intellectuelle. Rivarol est un esprit libre, un électron libre. Mmh. Et même si effectivement il a choisi le camp de la royauté en 1789, il n'a cessé d'exercer un esprit critique, de rester lucide sur son propre camp.
Alors c'est ça qui est fascinant chez lui, effectivement. Enfin, c'est un des côtés les plus passionnants, les plus modernes du personnage, ou au contraire d'ailleurs les plus opposés à l'esprit moderne, à l'esprit actuel. C'est que il choisit un camp,
oui,
mais pas du tout pour dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est formidable, quel beau rassemblement d'intelligence et de bonne volonté. Il choisit un camp et il dit: mes enfants, il faut vous réveiller parce que vous faites quand même beaucoup de bêtises et il faudrait peut-être arrêter et changer de monde. Ça, c'est vraiment la caractéristique principale, la plus frappante de Rivarol. Et il le fait en un temps où c'est quand même très dangereux.
Oui, alors effectivement, hein, il a des mots très durs sur le roi, sur les différents ministères, sur la cour, sur les aristocrates, sur les coalisés, etc. Et il le fait en un temps où c'est difficile, enfin son engagement, parce que c'est vrai qu'il fallait quand même un certain courage et du panache pour revendiquer cette particule qu'on lui avait d'ailleurs reproché d'avoir usurpé. Voilà. Donc c'est un homme qui a du tempérament, c'est un homme qui a du panache, c'est un homme qui a du cran.
Quel était son rôle, enfin quelle était l'importance de son rôle à l'époque? Est-ce qu'il vraiment il a eu une audience, un pouvoir intellectuel?
Oui, pouvoir intellectuel qu'il avait déjà conquis avant la Révolution française, puisque tous les salons parisiens rêvaient d'avoir Rivarol à dîner le soir et de le recevoir.
À cause de son esprit?
À cause de son esprit.
À cause de la pertinence de ses...
À cause de son esprit. Parce que Rivarol ne fréquentait pas les salons politiques. Hein. Il ne fréquentait que les salons littéraires. Et puis, au moment de la Révolution française, il a été contacté, notamment par le duc d'Orléans, qui a essayé d'acheter sa plume. Donc, oui, il avait un pouvoir. Et deuxième chose qui me fait penser à ça, c'est que le journal politique national, qui est le journal dans lequel il s'est engagé en faveur de la monarchie, s'est très bien vendu, ce qui lui a permis de bien vivre pendant un temps. Mmh. Donc là, c'est un signe aussi manifeste, ouais, de son autorité.
Et bon, il a donc eu un pouvoir, mais est-ce que ce pouvoir s'est concrétisé? Est-ce que ses arguments ou ses positions ont pu faire évoluer les choses d'une manière différente de ce qu'elles auraient été s'il n'avait pas été là?
Malheureusement pas. Je dirais que c'est vrai que le journal politique national est... Enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve que ce sont des pages de journalisme vraiment excellentes. Il prend du recul vis-à-vis d'événements qui sont quand même très brûlants, vis-à-vis d'une actualité brûlante. Il essaye de ne pas juger, de ne pas condamner, même s'il prend parti, hein, parce que pour lui, impartialité n'est pas justice. Hein. Mais il essaye à chaque fois de savoir raison garder, d'essayer de comprendre l'événement qu'il est en train de vivre. Le problème, c'est que ça demande du temps, et que pendant ce temps-là, les révolutionnaires agissent. Et que, enfin, je crois que Rivarol aurait peut-être dû davantage pousser à l'action, et peut-être moins invité à la réflexion.
Probablement que il est probable que ce qu'il n'a pas compris, c'est ce que nous a dit Upinski dans son livre Vous aurez la parole ou la tête coupée, c'est que les révolutionnaires ne s'embarrassaient pas de précautions. C'est-à-dire que quand ils voulaient couper la parole à quelqu'un, ils lui coupaient carrément la tête.
Ah oui, non, mais et ça, il le sait. Et il le sait tout de suite, puisque pour lui, la terreur commence dès juillet 89. Il n'y a pas de distinguo entre petite terreur, grande terreur. Et il avait d'ailleurs annoncé cette grande terreur, en disant que ça allait s'amplifier. Il savait le risque qu'il prenait.
Est-ce qu'aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans l'univers des médias, vous voyez un personnage qui pourrait évoquer la personnalité de Rivarol? Pas lui ressembler, parce que c'est
difficile.
Dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur lequel vous avez un regard comme ça, enfin un peu comme celui que vous portez sur Rivarol?
Je je trouve qu'aujourd'hui, on manque cruellement d'impertinence. Ouais.
Parce que c'est vraiment l'impertinence qui est le trait principal de ce
oui.
caractère. Et ce qu'on voit, alors ça nous renseigne beaucoup sur l'époque.
Oui.
C'est-à-dire que c'était une époque de terreur, mais une époque de terreur avec un panache extraordinaire, où oui. les gens riaient, dansaient, et au fond affrontaient le destin qui était leur avec beaucoup de tranquillité, alors qu'aujourd'hui, on est entouré de pétochards qui n'osent rien dire sur rien.
Et oui, d'ailleurs, les précautions sont partout. On fait du vélo, maintenant il faut porter un casque. On nous prémunit contre tout. Et bientôt, on se demande si on va réussir à pouvoir mourir tranquillement.
Alors, je suis navré d'être obligé de mettre fin à cet entretien parce que on aurait eu des choses passionnantes à se dire. Enfin, vous auriez eu des choses passionnantes à nous dire, mais
malheureusement,
on est à la fin de l'émission. Je voudrais vraiment convaincre les auditeurs de lire votre livre et de venir vous rencontrer samedi. C'est samedi. Vous
c'est signez, samedi, effectivement, oui.
Et ce livre est gros. Mais il n'est pas du tout pesant, voilà.
J'ai essayé...
Comme nous.
De me conformer à l'auteur.
Rivarol face à la Révolution française, aux éditions de Paris. Par Madame Valérie Baranger. Et c'est un livre qui vous apprendra beaucoup de choses sur Rivarol, mais surtout, surtout sur cette époque...
Oui, sur la Révolution française.
Il n'a vraiment rien à voir avec la nôtre aujourd'hui.
Non.
On est dans la continuation de la Révolution, mais on est dans la continuation de la Révolution comme une femme de 98 ans atteinte de maladie d'Alzheimer dans une chaise roulante et dans la continuation de la jeune fille de 16 ans qui dansait joyeusement sur les cadavres des aristocrates 88 ans ou 82 ans avant. Donc voilà, nous on est dans une révolution qui est gâteuse. Et là, on voit Rivarol face à une révolution qui est encore assoiffée de qui croit encore à son destin.
Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que Rivarol est un témoin oculaire
oui,
des faits qu'il décrit.
Important.
Il est à Paris au moment de la révolution et il connaît parfaitement les acteurs de la révolution.
C'est un des premiers grands reporters.
Donc exactement, c'est un témoignage capital.
Valérie Baranger, Rivarol face à la Révolution française, c'est paru aux éditions de Paris. Ça vaut 39 € et vous pourrez vous le procurer samedi à la librairie France Livre, librairie du Petit Pont, librairie Saint-Nicolas.
Et sur Internet aussi, hein, il est à vendre partout.
Sur Internet.
Vous serez vous-même, Serge.
Je serai moi-même, mais je crois que c'est...
Samedi à France Livre.
Non.
Merci beaucoup.
Merci.
Au mois de septembre maintenant, je ne reviendrai pas vous ennuyer
merci,
avant.
Merci Serge.
Merci Monsieur l'Abbé. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Lebekech, assisté de Victoria, diffusé en direct mercredi 11 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 12, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Claudio.